Le troisième exode, prêché le 30 juin 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA, au Branham Tabernacle. Et maintenant, courbons nos têtes pour un moment de prière. Si parmi nous, certains ont préparé des requêtes spéciales pour être apportées devant Dieu, levez vos mains et tenez à la main vos demandes. Père céleste, nous te sommes reconnaissants de cette nouvelle opportunité d'être de nouveau réunis de ce côté-ci de l'éternité. Nous attendons de toi un renouvellement de nos forces. Donne-nous du courage pour affronter le chemin qui est devant nous. Nous sommes assemblés comme l'étaient chaque matin les enfants hébreux pour recevoir la manne qui avait été préparée la nuit précédente en vue de les soutenir pendant cette nouvelle journée. Et nous nous sommes réunis pour obtenir ce matin la manne spirituelle, pour nous fortifier durant notre marche. Et dans le creux de toutes ces mains qui se sont levées, tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Je joins ma prière à la leur devant toi, afin que tu subviennes aux besoins de tous. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu, que tu peux faire toutes les choses que tu leur as promis d'exécuter pour eux, si seulement ils veulent bien y croire. Nous nous rappelons ce cantique, crois seulement, et cet autre, marche avec ton roi et parle-lui. Maintenant, Père céleste, bénis ta parole ce matin, et qu'elle puisse reposer dans mon cœur, et nous apporter ce dont nous avons besoin, et que nous te demandons, Père, nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois ce qui a été dit. J'étais heureux quand ils me dirent d'aller dans la maison du Seigneur. Et hier, j'ai quitté Hot Spring et frère Moore m'a dit, « Frère Branham, pourquoi ne descendriez-vous pas là-bas avec moi à la convention qui se tient là-bas? Vous vous reposerez ainsi un jour ou deux. » Je lui ai répondu, « J'ai deux services demain. » Il me dit, « Deux services ?»« Oui. » Il me répondit, « Un homme qui prêche avec autant d'ardeur que vous le faites a besoin de se reposer une semaine après chacune de ses prédications. » Prenez un pasteur, il donne son message le dimanche matin, puis il se repose le reste de la semaine. Et lui, il a prêché durant 30 ou 40 minutes. Mais vous, c'est pendant 2 ou 3 heures chaque fois que vous prêchez. Et cela tous les jours, et quelquefois 2 fois par jour. Puis vous priez encore avec le discernement dans les rangées de prières. Et maintenant, vous me dites que vous allez rentrer chez vous parce que demain dimanche, vous avez 2 services à diriger. Oui, monsieur. « Mais comment y arrivez-vous » m'a-t-il dit. Je lui ai dit, « Mon aide vient de Dieu, voyez-vous » Et alors que j'entrais tout à l'heure dans le tabernacle, quelqu'un a dit dans la prière, « Il est tard. » Oui, il est tard, et les besoins sont grands. Nous sommes ici pour essayer de notre mieux de vous aider dans cet âge si important que nous vivons. Et ce soir, Dieu voulant, je voudrais vous parler sur le sujet suivant, « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Je désire enregistrer ce message sur bande magnétique. Je pense que Frère Neville pourra s'en occuper. L'autre dimanche, j'ai demandé à Frère Neville de donner lui-même son message et je l'ai juste complété après lui. Mais s'il veut bien enregistrer l'étude biblique de ce dimanche, alors ce sera très bien. Donc, dimanche prochain, Dieu voulant, et si nous sommes encore ici, je vous parlerai sur ce sujet, et il me tient tant à cœur, j'en parlerai d'abord dans ce tabernacle, car je veux accuser cette génération de crucifier Jésus-Christ. Dimanche prochain, Dieu voulant, et le message ce soir vers 7h, 7h30 sera « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Et quelquefois, quand je prononce des messages comme ceux-ci, je dis des choses qui sont à l'emporte-pièce. Et cela ne s'adresse pas particulièrement à cette église ici, mais aux églises dans le monde entier, car ces bandes circulent dans les jungles ou partout ailleurs. Et quelquefois le Saint-Esprit me conduit à dire telle ou telle chose qui peut être tout particulièrement destiné par le Saint-Esprit à telle ou telle personne de l'Australie ou d'ailleurs. Et quelqu'un pourra dire, mais pourquoi parle-t-il ici de cela? Les conditions exposées n'existent pas ici. Mais voyez-vous, c'est alors que le message est destiné à une autre contrée. Je suis sûr que vous me comprendrez. Ces messages sont destinés à l'Église en général. C'est le Seigneur qui m'a conduit à les prononcer et à agir ainsi, quel que soit le sujet du message. J'ai passé à Hot Spring des moments glorieux en assistant à une réunion tenue par des pentecôtistes non modernes. Des pentecôtistes à l'ancienne mode. Et je suis sûr que ceux qui ont assisté à cette réunion pentecôtiste ont été satisfaits. Je ne connaissais pas ce groupe particulier. Et je devais y rester une semaine, mais je n'ai pu leur consacrer pas plus que 2 ou 3 jours. Mais je veux préciser une chose. Dans cette réunion, ils avaient certainement la foi pour croire. Est-ce que certains d'entre vous ont-ils été là-bas? Je ne connais pas le nom de cette dame qui est assise ici même au bout de cette rangée, mais je sais qu'elle y assistait. Et je connais également des frères qui étaient là-bas. Frère Jackson, frère Palmer. Et la foi est toujours récompensée. Voyez-vous, de tous les malades qui étaient alignés là-bas, pas un seul qui ne soit parti, qui n'était pas guéri. C'est Dieu qui les a tous guéris. Et parmi vous, certains n'ont pas pu comprendre leurs émotions, leurs cris et leurs danses. Et pourquoi ces personnes agissaient-elles ainsi? C'est parce qu'elles étaient remplies de foi. Elles ne voyaient personne d'autre que Dieu devant elles. Elles criaient leur joie devant Dieu et c'est tout. Et je veux dire que j'ai eu le plaisir de voir ces groupes de femmes aux cheveux longs. Et c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Une des plus propres. J'ai déjà vu dans la jungle ou dans la brousse des manifestations de ce genre, mais c'était la première fois que j'assistais à une réunion composée de personnes d'allure moderne de ce genre. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien habillées et parées correctement. Et je ne suis pas toujours d'accord avec les enseignements des pentecôtistes, mais là, j'étais d'accord avec eux, parce que pour moi, ils m'apparaissaient comme de véritables chrétiens. Ainsi le Seigneur m'a amené avant-hier à midi à parler sur le sujet suivant, encore une fois de plus, Seigneur. Je le dis pour ceux de l'Église ici qui l'ignoraient. Il y avait une raison pour cela. Ce petit groupe était attiré vers quelque chose et ainsi le Seigneur les aida à le faire. C'était merveilleux. Si vous ne possédez pas un œil spirituel, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir certaines choses. Il faut que vous puissiez les saisir. Et quand je suis entré, frère Ungreen chantait, c'était la seconde fois que je l'entendais, il chantait, « Je marche et je parle avec le roi. » Et j'ai pensé en moi-même, « N'est-ce pas bon de pouvoir marcher et de parler avec le roi pour en faire son associé de chaque instant, non seulement ici dans une église, mais partout ?» Pouvoir marcher et parler avec le roi. Ici, regardez juste sur le mur. Ici, il y a une carte de visite au nom de George Todd, qui est épinglée là à ce petit tableau. C'est George Todd qui l'a peinte pour moi. J'ignore le mobile de ce peintre. Et ce tableau représente au fond une montagne dans la forêt. Au premier plan, un ruisseau qui serpente. Et de l'autre côté du ruisseau, il y a une biche et son faon aux oreilles dressées qui regardent vers l'autre rive. Je ne sais si M. Todd est ici, je ne le connais pas, mais je veux vous dire ceci, le Seigneur m'a parlé quand j'ai regardé pour la première fois ce tableau. Il se peut que le peintre était ignorant de la chose quand il peignit le tableau. Mais vous vous rappelez ma petite histoire concernant cette biche que l'individu s'apprêtait à tirer? Eh bien, c'était elle, avec son petit au bord des eaux de la rive, voyez-vous? Et c'est par l'inspiration du peintre que ce tableau a été exécuté. Et je pensais, oui, que de l'autre côté, derrière ces arbres, toujours verts, il existe une mère et son enfant qui attendent là-bas. Merci, frère George Todd, si cet homme se trouve aujourd'hui parmi nous. Bien, maintenant, j'aimerais commencer cette étude du dimanche. D'habitude, je suis assez long pour ce genre de leçons. Et depuis hier, je ressens quelque chose qui se manifeste dans mon cœur. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais le Seigneur le sait. Je deviens vieux et j'ignore combien de temps il me reste à vivre ici. Mais il existe une grande question qui agite l'Église de nos jours et qui provoque beaucoup de remous. Et quand je prêche sur la pomme qu'Ève a mangée et que par les Écritures je peux donner la preuve qu'il ne s'agissait pas de pomme, alors ce message provoque beaucoup de confusion. Et dans environ 30 jours, savez-vous, je dois me rendre de nouveau en Arizona. Ainsi, avant que je ne disparaisse, et Dieu voulant, j'aimerais écrire ou expliquer la vérité réelle sur le mariage et sur le divorce. J'aimerais que si ce message est enregistré, il ne soit pas diffusé. Ce problème est capital. C'est dans les dernières heures de cet âge que les mystères de Dieu doivent être révélés. Et hier, comme je gravissais ces montagnes, à la lumière du jour, le Saint-Esprit semblait me dire « Enregistre cela et diffuse-le ». Je ne sais pourquoi, en ce qui concerne la réelle vérité sur le mariage et le divorce. Il y a deux courants d'opinion. Certains disent « Ceux qui peuvent jurer qu'ils étaient en état d'adultère, eh bien, ils peuvent se marier. » Et d'autres disent « Eh bien, s'ils se maltraitent l'un l'autre, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il vaut mieux vivre en paix sur la terre que de vivre en enfer sur la terre. » Et il y a tant d'autres questions. Certains se marient à l'ancienne coutume et d'autres demandent à être aspergés d'eau bénite. Ils vont chacun de leur côté disant qu'ils n'ont jamais été mariés et bénis, ils retournent de nouveau à l'église. Et il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusions, la vérité doit se trouver quelque part. Je crois, et je le dis avec respect, je crois que le Seigneur m'a révélé la vérité à ce sujet. Mais si j'allais l'annoncer dans les églises, je provoquerais partout des dissensions, très certainement. Alors, je communiquerais seulement cela aux pasteurs de chaque église, la bande qui traite de ce sujet. Ils l'écouteront, ils agiront ensuite comme ils le voudront. Mais je désire enregistrer cette bande pour montrer simplement quelle est la vérité à ce sujet. Je crois que nous sommes arrivés au moment où tous ces mystères doivent être révélés. Ils ont commencé à l'être au fur et à mesure. Lorsque nous avons étudié les sept sceaux, les sept âges de l'Église, bientôt nous aborderons l'étude des sept trompettes et les sept coupes. Et peut-être que dans deux semaines, nous pourrons examiner ces deux points. J'aimerais enregistrer tout cela sur bande et ensuite diffuser tous ces messages sous forme de livrets imprimés au meilleur prix afin que chacun puisse les conserver à un prix aussi réduit que possible. Alors, si le retour du Seigneur tarde quelque peu, et si je disparais, vous constaterez que tout ce que je vous ai dit dans le nom du Seigneur s'accomplira exactement comme je vous l'ai annoncé. Tout ce qui devait arriver jusqu'à ce jour s'est déjà produit. Et ce qui avait été annoncé pour des temps postérieurs à celui que nous vivons actuellement, cela s'accomplira au temps voulu. Je compte sur le Seigneur pour que tous ces projets de diffusion se réalisent. Les gens seront avisés et il y en aura beaucoup qui viendront et entendront ce message. J'apprécie cela. Et si personne ne croit à ces choses et ne les écoute, à quoi bon rester ici et parler de cela, voyez-vous? Ce serait juste comme jeter le pain sur la surface des eaux. Mais si personne ne voulait les croire, ce serait jeter des perles au pourceau. Mais il y en aura qui le croiront, qui en retiendront chaque mot. C'est pourquoi nous devons posséder autant de ces livrets et quand nous serons prêts pour ce service, pour la gloire de Dieu. Nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous accorde cela et j'attends d'être divinement inspiré pour agir dans ce sens. Dieu a un temps pour chaque chose, voyez-vous. Il ne nous appartient pas d'aller plus loin, de forcer la course. Vous moissonnez votre récolte de blé, si vous le faites, avant que les épis ne soient complètement mûrs, vous perdrez la plus grande partie de la récolte. Ainsi, quand la faucille sera prête et qu'elle sera prête à être lancée dans le champ, c'est Dieu qui la lancera lui-même. Ailleurs, nous pourrons moissonner. Et toute la journée d'hier et toute la nuit dernière, l'idée suivante me poursuivait sans cesse. Je ne pouvais pas la chasser de mon esprit. Je me suis couché vers minuit, alors que la nuit précédente, je n'avais dormi que 3 heures. Impossible de dormir. Quelque chose me harcelait. Enregistre, mariage et divorce. Voyez-vous, Dieu voulant, si cela reste sur mon cœur, et si le Seigneur me conduit plus loin dans cette voie, eh bien, j'enregistrerai ce message, voyez-vous. Mais rappelez-vous, il sera destiné uniquement aux pasteurs, aux ministres de Dieu, voyez-vous. Et cette bande sera connue des différentes assemblées. Certaines penchent de ce côté-ci, les autres de l'autre côté, chacune a sa propre opinion. Mais je désire que les frères qui sont des ministres de Dieu l'étudient soigneusement et qu'ils en fassent l'usage qu'ils voudront. Car chacun d'eux est le seul responsable de son groupe et de son église. Ils pourront écouter la bande et entourer avec leurs anciens. Ils verront ce que le Seigneur a enseigné au sujet du mariage et du divorce. Cela est plus sacré que beaucoup ne le pensent. Ils pourront assimiler à tout cela, ainsi que la semence du serpent. Et c'est la même chose qui se révèle à vous. Voilà ce que sont les mystères. Rappelez-vous, dans les jours d'Apocalypse 10-7, dans les jours du septième ange, du septième messager, tous les mystères de Dieu seraient dévoilés. Il n'en restera plus. Toutes les choses qui ont été cachées jusque-là seront révélées par le Seigneur lui-même. C'est à 7h30 que nous allons commencer cette leçon, n'est-ce pas? Maintenant, frère Neville, si vous avez un message pour ce soir, donnez-le. Cela ne prendra pas plus d'1h45 et j'enregistrerai. Mais j'aime écouter le frère Neville. J'aime ce frère. Il est mon frère. Et je pense qu'il est un merveilleux prédicateur, un ministre de Dieu vraiment étonnant. Et ce qui me plaît tout particulièrement en lui, c'est qu'il est pénétré de son sujet quand il parle. Il vit ce qu'il dit. Vous savez, il est plus facile de vivre la prédication que vous entendez que celle que vous prêchez. Rappelez-vous ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, voyez-vous. Mais avant toute chose, Dieu tout d'abord va ouvrir cet enseignement biblique de ce dimanche. Aussi, j'aimerais que nous lui demandions humblement de le faire. Ô Père Céleste, c'est par la foi que nous nous tournons vers le futur. Maintenant, par la foi, je dirige mes regards vers ce proche avenir, où maintenant, Seigneur, tu vas sur cette terre rassembler ton peuple. Quand nous voyons toutes ces églises et ces dénominations clouées au sol, si différentes les unes des autres, il n'est pas étonnant que tout s'en éloigne. Comme il en était au temps de ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph, les Hébreux n'avaient plus qu'un but, celui de retourner chez eux. Et dans les derniers jours, nous avons vu également que la haine des Juifs par Hitler, Staline, Mussolini a poussé les Juifs à rejoindre leur patrie. Ô Dieu, tu utilises des voies que nous ne comprenons pas toujours pour arriver au résultat escompté. N'ayant pu se loger en Allemagne, en Italie, en Russie, ne possédant plus rien qui soit à eux, ils ont été obligés de retourner chez eux afin que la parole soit accomplie. Oh, la main d'amour de Dieu, quelquefois elle paraît cruelle, le peuple souffre, mais en définitive, c'est toujours la main tendre de Jéhovah qui conduit ses petits-enfants. Nous te remercions, Seigneur. Maintenant, je te prie, ô mon Dieu, car le temps vient où les dénominations feront pression sur le véritable croyant. Ils les excommunieront, leur disant que si leur nom n'est pas inscrit sur leur propre registre, ils seront perdus. Ils leur diront de rejeter tout autre groupe. Et c'est seulement la tendre main de Jéhovah qui les conduira à l'arbre de la vie. Je te prie, Seigneur, que chacun d'eux parvienne à la connaissance de la vérité. Je sais qu'ils le désirent, parce que c'est ta parole qui le déclare, et elle ne peut pas faillir. Puissions-nous être conduits à cet arbre de la vie. Puissions-nous posséder la vie éternelle, voir la main de Dieu, et par les yeux de la foi, puissions-nous voir au-delà de ces arbres qui nous entourent aujourd'hui. Puissions-nous voir, là-bas, ce qui se profile à l'horizon, la terre promise. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, et bénis ces quelques versets notes que j'ai écrits sur cette feuille de papier. Puisse le Saint-Esprit se manifester maintenant, alors que je me livre à la circoncision de ma langue, de mes pensées et de mon entendement. Et l'Église te livre ses oreilles de la compréhension et son cœur. Nous te demandons tous que tu nous parles au travers de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous te le demandons dans le nom de la parole, Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, lisons un chapitre, chapitre 3 dans l'Exode, les versets 1 à 12. Restez attentifs pendant la lecture. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. » Avez-vous remarqué? « Je suis descendu, mais je t'enverrai. » C'est Dieu qui vint sous la forme d'un homme. Va. Relisons de nouveau le verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller voir Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est seulement ce matin que, me sentant profondément inspiré par le Saint-Esprit, j'ai noté le signe de la montagne. Dieu renvoie son serviteur du lieu même d'où il s'était enfui. Il lui donne le site d'une montagne. Je ne l'avais jamais saisi auparavant. Et ceci fera pour vous tous un signe qui est éternel. Voyez-vous, ce matin nous allons parler du second exode du peuple de Dieu, ou de l'appel du peuple de Dieu. L'exode signifie sortir de, ou être appelé hors de, être enlevé de. Et cette leçon aura pour sujet le second exode du peuple de Dieu. Évidemment, il existe beaucoup de genres d'exode, mais je parle en ce moment de l'époque où Dieu lui-même a appelé l'exode. Et cette génération, ou cette opération, consista à appeler d'Égypte le peuple hébreu pour le conduire dans le pays de la promesse. Et en cette époque, Dieu est prêt à remplir la promesse divine qu'il a donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a eu des centaines d'années qui se sont écoulées entre-temps. Mais ici encore, Dieu n'oublie jamais sa promesse. C'est au temps voulu que Dieu réalise toujours sa promesse, au temps convenable. Vous devez avoir la pleine assurance que ce que Dieu a promis dans sa Bible, il le fera. Inutile d'essayer de penser à quelque chose d'autre et de dire, eh bien, le prophète peut-être s'était trompé. Cela ne peut pas arriver en ce jour. Cela peut paraître presque impossible à première vue. Mais bien aimé, c'est encore plus impossible aujourd'hui. Mais Dieu le fera de toute manière, parce qu'il accomplit ce qu'il a promis. Effectivement, comme cela paraît simple du temps de Moïse, je suis descendu, j'ai entendu les cris, je me rappelle ma promesse, je suis descendu pour l'accomplir, voilà pourquoi je t'envoie, tu le fais, je serai avec toi, certainement je serai avec toi partout où tu iras, ne crains point, je suis descendu pour les délivrer. Oh, je suis persuadé que la pensée spirituelle comprend cela. Je t'envoie pour rassembler mon peuple. Fais-le sortir. Je serai avec toi maintenant. Et comment pouvons-nous rester calmes? Comment la foi peut-elle saisir cette espérance dans ce moment-là? C'est Dieu qui va agir. Il l'a promis. Peu importe comment il s'y prendra, quelles que soient les circonstances ou quoi qu'on puisse dire, de toute manière, Dieu fera cela parce qu'il a promis de le faire. Et Dieu agira avec tant de simplicité que cela va dépasser l'intelligence des gens instruits qui essayeront de raisonner à ce sujet. Mais comment cela peut-il arriver? Maintenant, je ne veux pas dire qu'un homme qui possède une bonne et solide intelligence, une instruction soignée, que cet homme ne le comprendra pas. C'est vrai. Ce sera merveilleux aussi longtemps qu'il se servira pour cela, non pas de sa raison, mais de cette culture qui lui permet de croire en Dieu, qu'il accepte dans la simplicité d'écouter ce que Dieu a dit et qu'il le croit. Alors, sa culture pourra lui venir en aide. Mais quand un homme essaye de raisonner disant que ça ne peut pas être accompli, alors il s'éloigne de Dieu constamment à tout moment, car il essaye de comprendre par lui-même en s'appuyant sur sa propre justice ou son propre jugement. Si vous ne comprenez pas un certain passage de la Bible, ponctuez votre lecture par des « Amen ». Agissez toujours ainsi. Avant de déterminer la signification de cet exode, je vais essayer de mettre en parallèle l'exode du temps de Moïse et l'exode de notre temps. L'un d'eux est naturel, l'autre est spirituel. Et les mêmes choses qui se sont passées dans l'exode naturel se retrouveront dans l'exode spirituel. Comment peut-on dire que la parole de Dieu n'est pas inspirée? Le premier exode se passait il y a environ 3450 années. Et ce que Dieu a promis et accompli à cette époque-là nous sert d'exemple pour le temps que nous vivons actuellement. Cela nous montre l'ombre du véritable objet pour prouver la réalité de cet objet. Et Dieu voulant, je ferai ce soir le rapprochement de cela en vous parlant de la lune et du soleil. Mais tout d'abord, nous allons revenir à la Genèse pour voir la raison de la présence des Hébreux en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il quitté son pays et sa terre? Après tout, dès le commencement de ses rapports avec Abraham, Dieu avait promis ce pays à la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu leur avait donné ce pays en disant, le voilà. Alors, pourquoi ce peuple n'est-il pas resté à la place que Dieu avait choisie pour lui? C'est une question actuelle. Aujourd'hui également, Dieu nous a donné une véritable Pentecôte. Il nous a donné un livre des Actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un territoire. Et pourquoi en sommes-nous sortis? Pourquoi l'Église en est-elle éloignée? Pourquoi la grande Église actuelle ne dit-elle pas de nouveau comme il est enseigné dans le livre des Actes, en portant les mêmes fruits? Il y a une raison à cela. Nous savons tous que nous sommes tous divisés et que nous vivons dans une condition terrible, la plus terrible condition dans laquelle la chrétienté n'a jamais vécu est celle de nos jours. Nous sommes en ce moment au bord d'un grand et terrible jugement qui va s'abattre sur l'Église. Mais avant que ce jugement n'arrive, Dieu appelle à un exode, exactement comme du temps de Moïse. Les péchés des Amoréens se sont entassés. Ainsi, Dieu appelle un exode spirituel. Maintenant, retournons en arrière un instant, avant de nous rendre compte et de découvrir un type. C'est parce qu'un frère, Joseph, avait été jalousé par les autres fils de Jacob, que le peuple d'Israël est descendu en Égypte à ce moment-là, loin de son pays. Rappelez-vous que les promesses et les bénédictions de Dieu reposent sur son peuple uniquement quand celui-ci demeure dans son pays. Comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure dans ma prière, pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon ? Pour que son peuple puisse retourner dans la terre promise, avant de pouvoir le bénir, avant de lui envoyer le Messie. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur d'Hitler ? Pour qu'il se dresse contre les Juifs, alors que lui-même était juif à 50%. Et pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi ? Pour endurcir les cœurs de Staline, de Mussolini. C'était afin de poursuivre les Juifs de Lorraine. Et c'était pour remplir ses promesses. Dieu se sert de tous les éléments qui sont à sa disposition. Souvent, il utilise les lois même du pays à cette fin. Ainsi, il dut endurcir le cœur de ses différents dictateurs afin que les Juifs soient obligés de retourner dans leur mère patrie. Il dut employer ce moyen. Bien, je dois poursuivre sans trop m'attarder. Et toutes ces histoires concernant les Hébreux au temps de Moïse, vous pouvez les lire dans l'Exode, celle de Joseph dans la Genèse. Lisez l'histoire de Joseph. L'avant-dernier des fils de Jacob, le dernier étant Benjamin. Mais lors de l'excommunication, suivez-moi avec attention, Joseph et Benjamin, ils étaient du même père, de la même mère. Et avant de rencontrer Joseph, Benjamin ne fut jamais reconnu par ses autres frères. Mais lorsque les frères de Joseph repartirent d'Égypte pour la Palestine, la part de Benjamin était le double de celle qui était allouée à chacun des autres. Pourquoi Joseph était-il haï de ses frères ? Parce que lui était spirituel. Bien que le plus humble du groupe, il s'élevait au-dessus de tous les autres. Ainsi, il fut haï sans cause. Ses frères n'auraient pas dû agir ainsi. Ils auraient dû le respecter. Mais pourquoi le haïrent-ils ? Non pas parce qu'il était leur petit frère, mais parce que Dieu prenait davantage soin de lui que des autres. Dieu lui avait donné une compréhension spirituelle. Il pouvait interpréter parfaitement les songes. Il pouvait prédire avec exactitude les événements à venir. Et tout cela sans effort. Il vit ce songe où les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Oh, ils lui en voulurent pour cela. Je pense qu'ils ont dû lui dire quelque chose comme cela. Hé, toi, petite sainte Nitouche. N'est-ce pas ? Un de ces jours, nous allons devoir nous incliner devant toi. Mais c'est ainsi que tout cela se passa. Et comment ces grands géants de frères pourront-ils s'incliner devant cet être insignifiant ? Et pourtant, cela arriva. Ils invoquèrent la pitié de Joseph. Mais à ce moment-là, il était tout juste un enfant. Et alors nous découvrons que Joseph fut abandonné par ses frères, les dénominations. Il fut livré à lui-même, alors que ses frères occupèrent tout le pays. Alors survint un grand événement. Nous réalisons qu'Israël, bien qu'étant resté dans le pays qui leur était assigné, devint dépourvu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les fondamentalistes se rendent compte de ce qu'ils sont, suivant une conception intellectuelle de la Bible, mais l'Esprit n'est point en eux. Ils ont rejeté Joseph, ils s'en sont détournés, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui, ils l'ont excommunié, ils l'ont vendu au monde, plus d'association avec lui. Et en agissant ainsi, ils durent changer de lieu et plus tard, ils durent descendre en Égypte. L'histoire de ces frères jaloux doit être comparée sur le plan spirituel d'aujourd'hui. Nous savons tous que la jalousie n'est pas basée sur la pureté, mais au contraire sur la souillure. La jalousie ne peut être qu'une jalousie immonde. Ils connaissent la même Bible, la nature du même Dieu qui a écrit la Bible. Ils en ont connu la confirmation, mais sans raison, ils s'en détournent. Il s'agit là d'une jalousie, d'une basse jalousie. Ils ont assisté à la guérison divine, à la résurrection des morts. Le Dieu qui vivait au temps des apôtres est le même Dieu qui vit aujourd'hui. Il a réalisé les mêmes miracles, mais ils m'en veulent. Ce n'est rien d'autre que de la jalousie, de l'immonde jalousie. Ils l'ont excommunié en disant, « Nous n'en voulons pas parmi nous, sortez-le de là !» Les frères de Joseph pensèrent qu'ils n'auraient jamais besoin d'un tel homme. Mais voilà pourquoi ils s'en débarrassèrent. La même chose se produit aujourd'hui. Ils pensent
que du moment que leurs églises sont devenues intellectuelles, qu'ils possèdent l'auditoire le mieux habillé, qu'ils sont à la tête de la plus grande organisation, que leurs ministres sont les plus intelligents, ils pensent alors qu'ils n'ont plus besoin du Saint-Esprit qui se manifestait dans la première église. En d'autres termes, ils pensent qu'ils sont comblés et riches. Pour eux, les actions parlent plus fort que les paroles, que les mots. Ils possèdent de grands séminaires. Pour eux, ils sont, grâce à leur cerveau et leur capacité intellectuelle, plus capables que ne pourrait le faire le Saint-Esprit de constituer une église bien organisée. Ainsi, ils n'ont plus besoin du secours du Saint-Esprit. Oh, c'est une chose dont on peut se passer de nos jours. C'était bon dans les temps anciens. N'est-ce pas cela exactement? Nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit pour guérir les malades. Nous avons des bons médecins. Nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit pour parler en langue, car nous sommes tous des gens intelligents. Quand vous le faites, vous vous écartez du cadre de votre travail et de la ligne de vie. Car dans son jour, Jésus a dit aux Juifs, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures que la pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre principale de l'angle sur quoi repose tout l'édifice ?» Vous voyez maintenant ce que je veux vous dire. Je suis sûr que vous avez compris. Aujourd'hui, ils pensent ne plus en avoir besoin de cette pierre-là. Ils disent, nous n'avons aucun besoin de ceux qui parlent en langue. Nous ne désirons plus ceux qui interprètent les langues. Nous n'en avons plus besoin de ces prophètes de l'Ancien Testament pour nous mettre en règle par le Saint-Esprit. Nous comprenons tout, voyez-vous. Ils ont remplacé le Saint-Esprit par un système d'origine humaine qu'ils ont adopté. Mais il existe des personnes qui sont élues, prédestinées avant la fondation du monde. Leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Celles-là ne suivront pas ce système, car elles possèdent un esprit spirituel. Peu importe si leur père, si leur mère font partie d'une organisation quelconque, car eux-mêmes, ils ne peuvent pas supporter cela. Ils ne se manifestent non pas par des paroles, mais par des actes. Ici se tient la parole, et le Saint-Esprit la confirme parmi ceux qu'il rassemble autour de lui. Il continue à guérir les malades, à ressusciter les morts, à parler en langue, à chasser les démons. Tout dépend de ce qui se trouve à l'intérieur de chacun. C'est ce que pensait Sœur Argandrait quand elle tondait la pelouse l'autre jour. Je passais auprès d'elle, je l'observais, elle l'ignorait. Mais notez ceci, le Saint-Esprit a son travail puissant. L'Église pense ne plus avoir besoin du Saint-Esprit. Les Églises vous l'affirment. Cet homme qui se tient devant vous parlera en termes si intellectuels qu'il parviendra à vous ébranler. Mais maintenant, arrêtons-nous quelques instants. Jésus n'a-t-il pas dit que les deux seront si près l'un de l'autre que l'élu lui-même serait séduit si cela était possible? Les paroles intellectuelles sont si doucereuses qu'elles pourraient tromper les gens. Et un intellectuel, quand il parle de l'Évangile, peut manier la parole de telle manière qu'une autre personne intellectuelle pourra se laisser séduire en condamnant le Saint-Esprit en lui préférant l'esprit humain. Nous en avons vu quelque chose. Il en fut de même au sujet de Joseph. Ils s'en débarrassèrent. Nous pourrions rester ici durant 3 ans et ce sujet ne serait même pas épuisé, car nous découvririons sans cesse les merveilleuses graines du Saint-Esprit. La pensée spirituelle peut se rendre en Égypte, voir le début de la persécution. Ils peuvent voir Joseph enlevé afin que la persécution puisse se lever. La pensée spirituelle voit Dieu conduisant tous les rouages afin que les événements s'enchaînent parfaitement les uns dans les autres. Nous voyons Potiphar rejeter Joseph, le mensonge de cette femme conduire Joseph en prison. Sa barbe pousse, il est excommunié par ses frères, mais alors, soudainement, Dieu agit. Comme nous voyons tous ces rouages tourner avec harmonie et avec ordre, nous voyons ce grand plan de Dieu dans ses moindres détails se développer jusqu'à cet exode, jusqu'à ce temps où il rappelle son peuple pour rejoindre son pays. Alors ce peuple doit être en position pour être béni par Dieu et recevoir celui qu'il a promis de leur envoyer du milieu d'eux, le Messie. Mais pour cela, il faut que le peuple retourne dans son pays, dans cette terre promise, avant que le Messie qui a été annoncé puisse venir et se manifester. Et l'Église doit agir de la même manière. Sortez de ces groupes qui rejettent le Saint-Esprit. Retournez à la terre promise avant que le Messie de retour ne puisse se manifester devant vous. Voyez-vous, la vie du Messie doit se manifester en édifiant une Église sans tache ni ride, c'est-à-dire prête pour devenir son épouse. Si une femme épouse un homme, et s'il est en désaccord avec lui, ce sera la confusion continuelle, les disputes incessantes. Mais si l'homme et la femme sont en parfaite harmonie, comme une seule âme, une seule pensée, ils deviendront aussi une seule chair. Qu'en dites-vous? Pour être divin, une telle harmonie avec Dieu, le fiancé est manifesté dans la fiancée, car ils seront un. Oh, quelle grande leçon! Rappelez-vous, seule la pensée spirituelle peut saisir cela. Elle peut discerner le type et l'antitype de toute chose. Mais nous pourrions discuter de cela pendant des heures. Observez ce qui arrive. Pourquoi avons-nous attendu durant toutes ces années? Dans Apocalypse 12, versets 13 et 14, il est parlé de l'Église qui s'envole dans le désert où elle est nourrie pendant 3 ans et demi, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Pourquoi ça se passe-t-il ainsi? Vous allez reconnaître ici encore les rouages actionnés par Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi ainsi il y a longtemps de cela? Quand certains hommes et certaines femmes ont essayé de déterminer par de savants calculs le temps exact du retour de Christ. Le juge Rutherford et beaucoup d'autres, les témoins de Jéhovah, ont prévu la venue de Jésus en 1914. La mère Shipton et d'autres avant elle ont également essayé d'interpréter l'Écriture et en fait, ils l'ont ruinée. Actuellement, cela est tenu caché. Comment l'Écriture pourrait-elle se contredire quand Jésus lui-même a dit « Aucun homme ne sait ni l'heure ni la minute ». Voyez-vous? Ils s'en tiennent à un seul petit passage de l'Écriture, mais vous devez examiner l'ensemble des Écritures. Et si Dieu est dans ceci, il manifestera que c'est la vérité, comme il l'a fait dans la guérison divine. Mais si cela n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Dieu n'a rien à faire avec cela. Mais s'il manifeste que c'est la vérité, alors ce sera la vérité. Comme il en fut de Jésus, Dieu a dit, « Si parmi vous il y a un prophète ou un homme spirituel, je lui parlerai. Et si ce qu'il a prédit se réalise, alors écoutez-le. » C'est juste. Mais si cette prophétie est fausse, elle ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne peut pas se tromper. Il est l'infini, l'infaillible, l'omnipotent. Il ne peut pas commettre d'erreur. Et si l'homme parle de lui-même, il se trompera. Mais s'il rapporte les paroles de Dieu, il ne peut pas se tromper. Car c'est Dieu qui l'a dit. Alors son inspiration vient de Dieu, et elle sera confirmée. C'est ainsi que Dieu agit pour parler à son peuple. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit qu'il parle contrairement à la loi et aux prophètes. Cela prouvera que la vie n'est pas en lui. Tout ce qui n'est pas conforme à la loi et aux prophètes est faux. Nous avons remarqué que les méthodistes, luthériens, les baptistes, les campbellites et beaucoup d'autres ont eu effectivement beaucoup de réveils. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes ont eu également de grands réveils. Et pourtant, le grand exode ne s'est pas encore réalisé. Pourquoi ? Dieu a dit à Abraham qu'il le maintiendrait dans le pays, mais l'iniquité des Amoréens n'était pas encore complétée. Dieu a usé de patience. Certains ont essayé d'interpréter les Écritures suivant leur propre intelligence. Et quand ils remarquent que les Écritures s'insèrent dans tel ou tel événement, ils disent « Voici le jour, voici l'époque !» Mais ils ne peuvent pas comprendre que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore arrivée à son comble. Les Hébreux devaient rester 400 ans en Égypte avant d'être délivrés. Mais ils restèrent 440 années à cause du rejet du prophète Moïse. Ils ont dû souffrir une période supplémentaire de 40 ans avant que Dieu ne leur permît de rentrer chez eux. Moïse, rejeté par les siens, dut attendre une période de 40 ans dans le désert de Madian avant de les délivrer. 40 années furent perdues. 40 années furent perdues parce qu'ils avaient rejeté le message. Maintenant, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et à cette échelle, 40 ans représentent 28 minutes. Actuellement, nous sommes en retard. Pourquoi ? Dieu montre sa patience. Il a attendu, il a observé. Si les luthériens allaient s'élever dans un réveil, non, ils se sont organisés. Les méthodistes avec Wesley, les baptistes avec John Smith, ils font de même. L'organisation s'installe aussitôt après le réveil. Les pentecôtistes, aussitôt après la restauration des dons de l'esprit, se sont aussi organisés. Jusqu'à ce que l'iniquité les submerge. Alors, nous sommes fatigués. Un exode se manifeste et il est visible. Le temps de jeter un regard en arrière et tout est maudit à nouveau. Pourquoi ? Car ils se sont mis dans un coin, ils ont repris à nouveau leur fine robe babylonienne et l'homme a essayé d'injecter ses propres idées en toutes choses. Mais nous devons nous en tenir à la parole. Les commandements de Dieu ont commencé à tituber. Pourquoi ? Il ne faut rien toucher dans cette cité maudite. Ne la touchez pas, laissez-la seule. À quand pensait qu'il pourrait prendre cet or et se parer de cette fine robe babylonienne et vivre gentiment et décemment comme le reste du monde ? Oh ! Voyez ce qui se passa dans le camp d'Achan. Ce qui est maudit est continuellement maudit. Ce qui est maudit déjà depuis le concile de Nicée à Rome en 325. Et depuis ce temps-là, la malédiction demeure. Mais Dieu a laissé l'iniquité remplir la coupe jusqu'au moment où le temps des Amoréens est compté. Et aujourd'hui, tous ceux qui possèdent une compréhension spirituelle, j'insiste sur ce mot, ils peuvent se rendre compte que l'iniquité de cette nation est arrivée à son comble. Elle s'est organisée, super organisée. Actuellement, elle est confédérée, elle se joint à autre chose. L'iniquité est à ras-bord. C'est le temps maintenant de l'exode. C'est le moment pour l'appel à la terre promise. Non pas la promesse de changer d'un pays pour un autre, mais pour nous ramener à la maison, au millénium. C'est le moment de l'appel. Dieu voulant, la coupe déborde. Elle est pleine d'iniquité et de souillure. Frère Branham, parlez-vous de la nation où nous vivons, les USA ? Oui, monsieur, certainement. Et vous dites, en tant que citoyen des États-Unis, vous ne devriez pas parler ainsi. Mais alors Élie, en tant qu'Israélite, n'aurait jamais dû appeler la malédiction sur Israël. Il en est de même pour tous les autres prophètes juifs. Il n'aurait jamais dû maudire cette nation. Mais voyez-vous ? Ils ne parlaient pas suivant leur propre pensée, mais suivant la parole du Seigneur. Tout dépend d'où vous recevez votre inspiration. Tout dépend de son origine. Si cela est contraire à la parole, laissez-le de côté. Mais maintenant, je demande à quiconque de prouver que ce que j'ai dit est contraire à la parole de Dieu. La Bible ne parle-t-elle pas de cette nation des États-Unis dans le chapitre 13 de l'Apocalypse ? Cette nation porte le chiffre 13. C'est une nation féminine. C'est une femme dans la Bible.
Et sur nos pièces de monnaie, c'est une femme qui est en effigie. Cette nation est féminine. C'est là où la pourriture a débuté, c'est là où elle se terminera. La pourriture s'est manifestée en premier lieu dans l'Éden par la désobéissance à la parole de Dieu. Et dans ce pays, la désobéissance a été choyée. Regardez les femmes qui prêchent et tout le reste. La saleté du monde entier vient directement d'Hollywood. La pire des nations dans le monde. Il y a chez nous plus de divorces qu'il en existe dans le reste du monde. Comprenez-vous? Pourquoi? Vous allez le découvrir un de ces jours, Dieu voulant. Vous verrez cette malédiction. Vous pouvez voir cet aveuglement relatif au divorce. Ce rideau que Satan abaisse devant les yeux des gens. Oh, nous vivons dans une heure terrible. La fin est imminente. Je le crois. Tout est pourri. Pourri jusqu'au trognon même. Notre nation apparaît dans l'Apocalypse 13. Le chiffre 13. Rappelez-vous, elle a débuté tel un agneau. Il y a eu la liberté de religion, mais après cela, elle a reçu de la bête son pouvoir. Et elle fut à son image. Puis elle parla avec toute autorité et accomplit les mêmes actes sales que la bête avait fait avant elle. Alors dites-moi si ce n'est pas là la prophétie concernant les États-Unis. La condition des Amoréens est sur le point d'être mûre, car ils sont toujours à l'œuvre dans ce pays. Le but du nouveau pape et de réunir tous les frères ensemble, d'une manière humaine. C'est ce qui doit être fait. Mais aux yeux de Dieu, cela est contraire au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec cela. Et chaque église fera partie de cette fédération. Mais sortez de cela aussi vite que possible. Sinon, vous allez recevoir la marque de la bête, tout en étant ignorant de ce que vous faites. Sortez-en! J'espère que la pensée spirituelle peut saisir ce que je dis. Je suis sûr que vous y arrivez, ici même, mais quand sera-t-il ailleurs? De toute manière, si nous ne pouvons pas visiter chaque nation, vous pouvez leur envoyer les bandes. Dieu trouvera le moyen de saisir cette âme, loin d'ici, là où cette semence prédestinée se trouve. C'est vrai, et aussitôt que la lumière la frappe, elle germe, elle prend vie. Il en est comme de cette petite femme samaritaine au bord du puits. Elle dit, cette fois-ci, j'y suis. Elle fut illuminée, elle a saisi. Oh, sortez-en, car cela est pourri et maudit. Dites-moi, où quelqu'un, s'il tombe, se relève-t-il? Alors, vous pourrez voir que ceux-là sont dans l'erreur. Très bien. L'iniquité des Amoréens n'était pas à son comble. Alors, ils durent patienter, ils durent attendre avant qu'il y ait un exode. Mais lorsque la coupe d'iniquité fut pleine, vint un exode naturel pour conduire un peuple naturel vers une terre naturelle. Et là où il y a un Amoréen naturel qui a autrefois habité, cette terre était la leur. Et l'iniquité de la dénomination qu'ils ont appelée si longtemps l'Église touche à sa fin. Un exode se prépare où Dieu montrera qui est qui. Ils formeront le corps de l'épouse de Jésus-Christ et ils entreront dans un exode vers la terre qui leur a été promise. Rappelez-vous, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Pour aller là-bas, vous n'avez pas à combattre comme le firent ceux du temps de Moïse. Tout est déjà prêt. Si ce tabernacle terrestre se dissout, nous en avons un autre là-haut qui nous attend. Là où je suis, a dit Jésus, vous y serez aussi. Le grand exode est imminent. Et comment Dieu prépara-t-il cet exode-là? Étudiez cela pendant une minute, puis regardez aujourd'hui. À cette époque, avant cet exode, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et que représentait alors Joseph? Il représentait la partie spirituelle dans cet exode spirituel. Et de nos jours, nous sommes libres. La femme, l'Église, Apocalypse 12-14, fut nourrie pendant 3 ans et demi. Mais finalement, ici se leva un pharaon, un dictateur, qui ne connaissait pas la liberté de religion. Il voulait les rassembler tous, les organisations, et vivre dans les délices. Elles ont vécu comme une branche greffée sur le véritable cèpe du christianisme, mais portant d'autres fruits que ceux d'origine. Les femmes sont admises vêtues les hommes sont liés dans leur esprit. Ils vivent tous sous l'étiquette de l'Église chrétienne, mais il s'agit d'une vigne qui a été greffée. Mais le vigneron va venir pour tailler cette vigne, comme il l'a annoncé. Et tous ces sarments qui n'auront point de fruits, ils seront coupés et jetés dans le feu pour être consumés. C'est une chose terrible à dire, mais quelquefois la vérité est dure à entendre. Cela vous montre comment Dieu dirige ses enfants au travers des eaux profondes et des sables mouvants. Il agit ainsi. N'oubliez pas que le pot doit être brisé en plusieurs morceaux, en plusieurs éclats, pour être remodelé ensuite et tenir debout. Oh, cela semble une chose terrible que de le détruire, mais cela est indispensable pour avoir un vase qui soit tout à fait neuf, un vase ou toute autre chose que vous vouliez faire. Et il y a eu un pharaon qui s'est élevé, qui n'a pas connu Joseph. Et ceci fut le commencement du commencement. Ce fut le commencement de l'Exode. Et quand cette chose commença à prendre forme sous un pouvoir politique, Dieu commença à se tenir prêt. L'iniquité des Amoréens arriva à son comble. Le temps que Dieu avait promis à Abraham arriva à échéance. Le moment de la délivrance avait sonné. C'est pourquoi Dieu permit à un pharaon qui n'avait pas connu Joseph de se lever. Et Ramsès vint au monde. Et aussitôt après, vient Ramsès. Et Ramsès fut celui qui ne connut pas les bénédictions de Joseph. Ce pharaon ne connaissait pas ce qui était le côté spirituel. Il était uniquement d'un genre politique. Il pouvait s'emparer de l'Éthiopie et du reste du pays grâce à sa puissance militaire. Tout ce qu'il connaissait, c'était la force militaire. Je pense qu'aujourd'hui, tout homme spirituel peut se rendre compte de ce qui arrive actuellement. Nous possédons un pharaon qui ne connaît pas la liberté de religion. Et quand notre président actuel entra en fonction, il ne pouvait pas jurer qu'il croyait dans la liberté de religion. Qu'arriva-t-il l'autre jour, quand nous avons eu cette question de la ségrégation? Là-bas dans le sud, quand ce gouverneur de l'Alabama a dit « J'aimerais m'entretenir avec ce ministre de Dieu, Martin Luther King. Mais comment cet homme peut-il être un conducteur, diriger son peuple dans un piège mortel? Si ces gens étaient des esclaves, j'irais moi-même là-bas et j'enlèverais ma veste et je me battrais pour eux. Mais ils ne sont pas des esclaves. Ils sont des citoyens de cette nation. Prenez la question de la scolarité. Si les gens ont un cœur dur et s'ils ne connaissent pas ces choses-là, vous ne pourrez pas leur faire comprendre des choses spirituelles qui sont combattues là-bas par des pouvoirs politiques. Mais pour les recevoir, pour les accepter, ils doivent naître de nouveau. » Une partie de la bande manque, note de l'éditeur. À ce pasteur qui, sous le couvert de la religion, conduit son précieux peuple dans un piège mortel où des millions de gens de couleur seront tués. Ils ne connaissent que le côté naturel de la question. Quand ce grand mouvement est survenu là-bas en Louisiane, je me suis trouvé sur place. Et j'ai vu un cher vieux frère, un ministre de couleur, se tenir sur l'estrade et demander à la foule, « Puis-je parler ? Ceux-là sont mon peuple ?» Et il continua en disant, « Ce matin, je veux vous dire à tous que je n'ai jamais eu honte d'être un noir. Mon Créateur m'a fait tel que je suis. » Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu veut vous voir rester. Il désire que chacun reste dans l'état où il l'a créé. Il a créé des fleurs blanches, des fleurs bleues et de toutes couleurs. Ne les croisez pas pour obtenir des fleurs hybrides. Vous agissez contre la nature. Et ce pasteur disait, « Jusqu'à ce matin, je n'ai jamais été honteux de la couleur de ma peau. Mais quand j'ai vu mes frères de couleur agir comme ils le font maintenant, j'ai eu honte d'eux. Je pense à moi-même que Dieu bénisse ce gaillard. » Il poursuivit, « Vous allez seulement créer des troubles. Regardez donc les écoles qui se dressent ici. Si nous n'en possédions pas, ce serait différent. Mais qui dispose des meilleures écoles ici en Louisiane ?» Il continua, « Prenons par exemple notre cité Shreveport. Il y a là-bas une école pour les Blancs qui est un vieux bâtiment. Et ici, on en a construit une neuve pour nous. Là-haut, ils ne possèdent aucun instrument de jeu. Ils possèdent juste une petite chose pour leurs enfants. Nous, nous en avons plein dans notre cour. Et en plus de cela, ils ont écrit pour nos enfants afin qu'ils aient une très grande piscine en marbre. Et nous avons les meilleurs enseignants qui puissent se trouver. Pourquoi pourquoi voulez-vous aller tous là-haut, alors qu'ici nous sommes mieux lotis? Que vous arrive-t-il donc? Et tous ces gens criaient, ah, 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 ils essayaient de couvrir la voix de l'orateur. Voilà où nous en sommes. L'inspiration est fausse. Tous ces gens de couleur sont mes frères, ils sont mes sœurs, mais s'ils étaient des esclaves, je dirais alors, joignons-nous à eux, et allons, descendons dans la rue, pour protester contre cela. Mais ils ne sont pas des esclaves. Ce sont des citoyens avec les mêmes droits que quiconque possède. Ils agissent seulement par une inspiration qui vient du diable. Et cela conduira que nous voyons la mort d'un million de Noirs. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une révolution, le début d'une révolution. Certainement, et cela n'est pas bien. Hommes et femmes possèdent leurs choix respectifs. Il n'y a aucune différence dans la couleur de notre peau pour Dieu. Que nous soyons blancs ou jaunes, nous venons tous d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés, nous a donné des couleurs différentes, peu importe. Si j'avais une peau jaune, je voudrais rester japonais ou chinois. Si j'étais un homme de couleur, je voudrais rester ainsi, car Dieu nous a créés ainsi. Franchement, la race noire a reçu beaucoup de dons qui manquent à la race blanche. Les noirs sont plus spirituels que les blancs. Ils ne se tourmentent pas comme nous. Ils ont beaucoup de choses qu'ils possèdent et qui manquent aux blancs. Dieu les a créés ainsi. Qui peut donc surpasser une chorale de noirs? Où peut-on trouver de telles voix? J'ai vu venir des noirs venant de ces régions arriérées et lointaines. Ils ne savaient même pas faire la différence entre leur main droite et leur main gauche. Ils venaient de 30 ou 40 tribus différentes pour chanter sous la conduite d'un maître et tous en chœur. Et je ne pouvais même pas trouver une seule faute. Ils ont constitué des chœurs depuis des années. L'un aura un ton plus élevé, l'autre plus bas. Et écoutez-les, c'est réellement parfait. Ils sont doués pour cela. Mais voyez-vous, cette confusion actuelle est arrivée par un homme politique élu par les Noirs, avec vos machines de perversion. L'autre jour, le gouverneur qui se tenait dans cette salle où il avait été élu, où il avait prêté serment, fut interrogé au sujet de la ségrégation. D'après la Constitution, chaque État des USA peut agir comme il lui plaît. Il lut la Constitution et il dit, « Maintenant l'école se dresse pour la ségrégation. » Ils avaient là-haut une école, et seulement deux enfants de couleur désiraient faire partie de cette école. Alors que les Noirs possédaient leur propre collège. Et que fit le gouverneur? Il se contenta de lire la Constitution. Cet homme-là ne connaissait pas Joseph ni la liberté. Il cherchait simplement à bénéficier des votes des gens de couleur. Il ignorait que c'était le parti républicain qui a libéré les Noirs en premier lieu. Et ces gens ont vendu leurs droits d'aînesse à un tel point que ce politicien les a conduits à leur perte dans un piège mortel. Tout ceci montre que tout système organisé par l'homme est voué à la chute. C'est exactement vrai. Et M. Kennedy a cautionné cette guerre civile, dont les membres durent se trouver face à leur propre père. La Constitution a été violée à nouveau. Ils dirent, non monsieur, nous ne combattrons point. Maintenant nous voyons que la nation va constater que nous ne vivons plus dans un régime de démocratie, mais nous vivons sous une dictature militaire. Vous connaissez cet homme ou ce vieil adage, une fois démocrate du Sud, toujours. Je ne le sais pas, mais sûrement il s'élèvera un homme de bon sens pour nous réveiller. Laissez donc en paix ces gens de couleur. Ne les tuez pas comme cet individu qui l'autre nuit a tiré dans le dos de ce frère avec ce fusil. Sa femme et ses petits-enfants se trouvent à la maison. Quel que soit son nom, cet acte est misérable et odieux. Oui, monsieur, j'aimerais être juge dans un cas pareil une fois. Tuer cet homme, probablement de couleur, qui se rendait chez lui pour y trouver sa femme et ses enfants. Mais c'est un citoyen. Il a le droit de défendre ses opinions s'il pense qu'elles sont justes. C'est un brave homme. Et dans le magazine Life, on voit la photo de ce petit enfant qui crie et qui pleure pour son père, alors qu'à l'extérieur, quelques renégats embusqués lui ont tiré dans le dos. C'est ce qui vous arrive quand vous rejetez le Christ. C'est vrai. C'est là où la nation entière est conduite par les politiciens. Quelle honte! Mais c'est nous qui l'avons voulu. Nous l'avons prouvé par la dernière élection. Mon petit garçon m'a dit ce matin, « Papa, les pères pèlerins, quand ils débarquèrent dans ce pays, appartenaient-ils à une certaine dénomination ?» Ils portaient de lourdes pèleries, n'est-ce pas ? Je lui répondis, « Non, mon chéri, ils sont venus ici pour la liberté de religion. C'est pour cela qu'ils étaient ici, pour échapper à toute contrainte religieuse. Voyez-vous maintenant où nous en sommes ? Cela signifie que tous ces royaumes doivent s'écrouler. Oh, je dois me dépêcher maintenant. Je prie Dieu pour que frère Martin Luther King puisse très bientôt se réveiller. Il aime son peuple, il n'y a aucun doute à cela. Mais s'il pouvait voir où son aspiration le mène, à quoi cela servira-t-il de choisir votre école au prix d'un million de Noirs qui seront massacrés ? Aussi bien ne pourriez-vous pas vous rendre à une autre école pour être enseigné ? Si vous étiez réduit à la famine ou à l'esclavage, je comprendrais que vous soyez des martyrs et que vous donniez votre vie pour une juste cause comme celle-là, mais vous faire tuer pour choisir votre école. Je ne vois pas. Je ne pense pas que le Saint-Esprit soit d'accord avec Martin Luther King sur tout cela. Hitler a agi ainsi en Allemagne. Il a conduit son peuple dans un piège mortel. Des millions de précieux Allemands sont morts. Il en est ainsi de même dans ce pays. Ce que je vous dis est enregistré sur bande. Quand je serai parti, vous pourrez le constater. C'est exactement ce qui va arriver ici. Ces précieuses personnes vont tomber comme des mouches. Ils déclencheront une guerre civile, une révolution, et blancs et noirs combattront les uns contre les autres, et ils mourront comme des mouches. Et quand tout cela sera terminé, qu'aurons-nous obtenu ? Un tas de cadavres. Mais il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il en est de même aujourd'hui. Un homme s'est élevé dans notre pays, il a prêté serment à la Maison Blanche, mais celui-ci ne peut pas jurer qu'il croit en la liberté de religion. Qu'a dit le nouveau pape ? L'un de ses projets est de réunir protestants et catholiques. Mais celui-ci ne peut pas jurer qu'il croit en la liberté de religion. Et pour toute personne intellectuelle, c'est ce qu'il conviendrait de faire, de réunir les protestants et les catholiques. Mais selon la Bible, c'est ce qu'il faut éviter. Mais la Bible dit qu'ils le feront quand même. Allons un petit peu plus loin. À cette époque, en Égypte, Ramsès grandissait en puissance. Il se développait. L'homme naturel Ramsès grandissait. Et l'homme naturel, c'est l'Antichrist. Il grandit au travers de la politique. Aujourd'hui, il est déjà à la Maison Blanche. En religion, tous les gens sont d'accord avec lui. Pratiquement toutes les églises des dénominations font partie de la Confédération des Églises. Ramsès grandit. Et quand toutes les églises seront rassemblées, elles vont y arriver. Qu'arrivera-t-il ? Tout cela constituera une puissance énorme, une seconde bête, exactement comme la première. Apocalypse 12, 11 et 12. Puis il s'établira une persécution contre tous ceux qui ne voudront pas s'unir à eux, et ceux-là seront boycottés. Alors pour ceux qui auront accepté la marque, ce sera trop tard. Ne dites pas, je vais prendre ma décision plus tard. Il vaut mieux prendre votre décision maintenant. Ramsès grandissait. Mais souvenez-vous que pendant qu'en Égypte, Ramsès grandissait en pouvoir, Dieu avait Moïse dans le désert. Et lui aussi se développait. Ramsès avait un système politique, Dieu, lui, avait un système spirituel, conduit par un prophète, prêt à descendre, à parler au peuple. Et tous deux grandissaient de conserve. Un de ces jours, il y aura un affrontement. L'Écriture nous apprend que le naturel copie le spirituel. Vous ne pouvez pas sortir de cela. Il en est ainsi. Cela est juste là devant vos yeux. C'est la vérité. Regardez l'épouse maintenant. Elle est appelée. Elle se développe. Elle prend de la puissance. Le Saint-Esprit descend. Les mystères de Dieu sont révélés. Tout est mis en ordre. Voyez-vous ? L'Église véritable, non pas une dénomination. Elle se libère des iniquités, elle se sépare des Amoréens. Il s'agit d'un peuple qui est libre. Oh, Dieu avait Moïse avec lui, son porte-parole, son propre prophète. Et bien qu'il eût déjà prophétisé, et qu'il ait prouvé être dans le vrai, puis Moïse fut à l'école du désert, refusé du reste du monde, il a été formé, instruit loin de tout dans le désert. L'ennemi proposera toujours son propre système, et les incroyants l'accepteront, car l'ennemi, c'est le signe intellectuel. Mais maintenant, retenez bien ceci, ne l'oubliez pas, il n'existe que deux pouvoirs. L'un est le pouvoir spirituel du Saint-Esprit, et l'autre, c'est le diable, qui opère au travers du pouvoir intellectuel. Et c'est grâce à ce pouvoir intellectuel que dans le jardin d'Éden, Satan a persuadé Ève de croire dans une conception intellectuelle contraire à la parole. C'est aussi simple que cela. Un enfant pourrait le comprendre. C'est toujours ainsi que le démon opère. Ce matin, nous avons vu qui se trouvait en Égypte. Il y avait un pouvoir intellectuel qui opérait en Ramsès. Et ce pouvoir lui fut donné. Cela l'éleva. Et ce Ramsès ignorait ce que Joseph avait fait dans son pays. Ce que l'Église a accompli dans les débuts. Aujourd'hui, nous constatons le même phénomène. Une puissance intellectuelle est venue. Elle renie ce qui fait la force de la piété. Toute l'écriture dans la Bible proclame cela. Vous comprenez pourquoi je désire que ceci soit enregistré sur bande et que cela soit diffusé partout. L'heure est arrivée. La vérité doit être connue. L'exode est imminent. La partie intellectuelle semble parfaite, mais cette inspiration vient de Satan. Et ce Ramsès intellectuel grandissait de jour en jour. Il monta sur le trône. Rappelez-vous, il s'éleva comme un frère de Moïse. L'un des deux devait s'asseoir sur le siège intellectuel. Remarquez, ce fut exactement comme dans le cas de Joseph vis-à-vis de ses frères. Et comment ont agi ces derniers envers le petit Joseph? Ils l'excommunièrent de la parole. Et la parole, c'est Dieu. Ils excommunièrent la parole. Et ils acceptèrent un credo. Et maintenant, voilà que ce credo s'est transformé en puissance. Ô Dieu, permets à ton peuple de comprendre cela. Comment puis-je crier plus fort? Comment puis-je démontrer davantage par les Écritures et sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous en sommes arrivés là? Oh, dites-vous, nous le croirions si cela venait du pape Jean, du pape tel et tel ou de l'évêque tel et tel, mais venant de vous, ne voyez-vous pas que Dieu se sert d'un petit être insignifiant dans le désert? Vous dites, comment cela peut-il se faire que tout soit erroné dans sa totalité? C'est que Dieu se manifeste à un individu et non pas à un groupe. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'avoir à son service un homme par lequel il puisse opérer. Ce qu'il veut, c'est un homme, c'est tout. Au travers de chaque âge, c'est ainsi qu'il a agi. Il a trouvé un homme dans les jours de Noé, un homme dans les jours d'Élie, un homme au temps de Jean le Baptiste. Seulement un homme, c'est tout ce qu'il lui faut. Au temps des juges, il essaya de trouver un homme. Il donna à Samson un grand pouvoir, mais Samson le vendit à une femme et on lui perça les yeux. Sont-ce là des juges? Mais non, il n'existe qu'un juge et c'est Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui Dieu cherche un homme qui puisse dire la vérité de telle manière qu'elle ne lui fasse pas peur. Un homme qui ne soit pas là donnant des coups, qui ne soit pas dogmatique, mais un homme que lui-même, Dieu puisse tenir dans sa main. Un homme à qui il puisse montrer que sa parole est vivante. Un homme à qui il puisse se montrer lui-même vivant. Je crois qu'il peut trouver une telle personne, prête à le servir ainsi. Je le crois, j'en suis sûr. C'est parce que je crois entièrement la Bible que je crois cela possible. Dieu peut trouver un tel homme qui puisse dire la vérité, c'est vrai. N'oubliez pas que l'ennemi opère chez les intellectuels. Alors, si Satan propose quelque chose à cet intellectuel, ce dernier s'assiera et raisonnera ainsi. Juste une petite minute. Ne serait-il pas préférable de soumettre la chose à un concile? L'autre jour, quelqu'un m'a interpellé. C'était un brave homme. Il travaillait dans une compagnie du service public. Il me dit, « Billy, je veux te demander quelque chose. Tu es bien irlandais. » Je lui répondis, « Je suis bien un peu honteux de te l'avouer. Oui, je le suis en partie. » Eh bien, me dit-il, « Tu ne sais pas que tu devrais être réellement un catholique ?» mais je suis un catholique. Je fais partie de l'église catholique originelle. Vous devez savoir que la première église universelle fut l'église catholique. Et regardez maintenant où elle en est arrivée aujourd'hui. Elle débuta à la Pentecôte, mais l'organisation l'a transformée à un tel point, au point où vous la voyez aujourd'hui. Il y a 50 ans seulement, les pentecôtistes faisaient les mêmes choses que l'église catholique à ses débuts. Mais voyez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus après s'être organisés. Alors le brave homme poursuivit son dialogue. Il me dit, « Ne crois-tu pas que lorsqu'un groupe de personnes avec l'esprit œcuménique, nous y voilà, qu'ils se rassemblent, qu'ils discutent et qu'ils tombent d'accord à l'unanimité sur une certaine question, ne penses-tu pas que cette question soit un petit peu juste ?» Il continua et me dit, « Je viens pour t'entendre prêcher, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. » Je lui dis, « La seule manière de prouver logiquement ton désaccord concernant mon enseignement, c'est de le prouver par la Bible, en s'appuyant sur la Bible. » Il me dit, « Mais la Bible n'a rien du tout à voir à faire avec cela. Pour toi peut-être, mais pour moi la Bible, cela me concerne, car vois-tu, sa parole est la vérité, elle est la parole. » Il me répondit, « Ne penses-tu pas qu'une réunion de gens à l'esprit œcuménique ne puisse pas être un peu plus à même de trouver la bonne solution et d'être persuadé d'avoir raison qu'un tout petit individu comme toi sans instruction? En vertu de quoi attaques-tu notre Église? Quand tu as prêché un soir sur les âges de l'Église, tu as reconnu le premier concile, tu as reconnu cela, et après tu as parlé de Nicée et de Rome, où a été formée l'Église catholique romaine. Mais ne sais-tu pas que dans ce concile furent rassemblés des milliers d'hommes spirituels et envoyés par Dieu? Ne penses-tu pas que leur esprit n'était pas plus apte à connaître la volonté de Dieu que ton esprit ici même? Après que Dieu ait prouvé au travers de 2000 ans que cette église a été la bonne? » Je lui ai répondu, « Dieu ne l'a jamais prouvé. Si cette église est vraiment l'église de Dieu, comme tu le dis, montre-nous les fruits que produisait alors la première église. » Jésus a dit, « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Il a dit également, « Quiconque enlèvera un mot ou ajoutera un mot à ce livre, sa part de l'arbre de la vie sera retranchée. S'il fait partie du concile œcuménique ou de quoi que ce soit d'autre, il est fini. » Il me répondit, « Tu perds la tête, Bill. » Je poursuivais, « Il y eut un temps où le royaume d'Israël se scinda en deux territoires distincts, comme aujourd'hui les protestants sont séparés des catholiques. Israël voulait rester Israël. Mais je lui ai dit, nous remarquons que dans le royaume de Juda, il y eut un moment un roi appelé Josaphat. C'était un homme droit qui tâchait de garder le droit de Dieu. Mais dans l'autre territoire, celui d'Israël, il y avait un autre roi nommé Achab. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il se maria avec Jézabel, qui servait Baal. Il l'introduisit dans le peuple de Dieu. C'est ce que nous avons fait dans l'Église. Jézabel s'imposa à Achab, le tenant sous sa dénomination. Achab, mais fais donc ceci. Achab, mais fais donc cela. Exactement ce que vous faites aujourd'hui. Et j'ai poursuivi en disant, le moment de vérité arriva. Ils voulurent que Josaphat et Achab soient réunis en un seul, leurs deux églises, exactement comme vous tentez de le faire aujourd'hui. L'homme de l'organisation dit à Achab, et même à Josaphat, « Oui, ce sera beau, votre peuple et mon peuple, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants, rassemblons-nous. » Puis quand il descendit pour l'expédition contre les Syriens, Josaphat dit à Achab, « Ne penses-tu pas que nous devrions prier à ce sujet ? Nous devons consulter le Seigneur. » Et Achab répondit, « Oui. » Josaphat répondit, « Je vais te dire cela. Cherchons un prophète du Seigneur. » Mais voyez-vous, Achab possédait un système qu'il pensait inspirer du Seigneur. Il dit, « Mais moi, j'en ai 400 de prophètes, bien instruits et bien éduqués. Et ils se disent prophètes hébreux. » C'est ce que disent aujourd'hui la troupe des ministres. Et on les convoqua. On leur posa une question sur l'issue de la bataille. Alors, ils se réunirent tous ensemble, comme le conseil œcuménique agit de nos jours. Puis, ils revinrent en disant, « Avancez, car le Seigneur est avec vous, ce pays véritablement vous appartient. Vous les repousserez, car ce pays est le nôtre. » Cela semblait très raisonnable. Mais pourtant, dans le cœur de Josaphat, cela s'en est faux. Il dit, « Je sais que tu possèdes 400 ministres œcuméniques ici. Ils sont bien entraînés, et ils sont tous tombés d'accord. Ils ont même fabriqué une paire de cornes et un fer. Et ils disent, ainsi dit le Seigneur, mais pouvons-nous juste en trouver un autre ?» Achab répliqua que le roi ne parle pas ainsi. Voyez-vous, c'était le politicien qui parlait, que le roi ne parle pas ainsi, car tous ces hommes sont des hommes entraînés. C'est moi-même qui les ai entraînés. Oui, c'est vrai, il en reste un autre, mais celui-là, je le déteste, voyez-vous. Il s'appelle Miché. Oh, ce n'est rien d'autre qu'un renégat au milieu d'eux. Il les contredit toujours. Il me dit toujours ce qui est mauvais. Et il est juste en train de lorgner pour mon royaume. Oh, regardez tout cela, quel gâchis. Examinez donc aujourd'hui votre dénomination qui a une apparence de piété mais qui en renie la force. Oh, vous pouvez vous compter par millions, être bien entraîné, mais où en êtes-vous au point de vue spirituel? Où est votre puissance? Vous êtes comme Samson, avec sa forte carrure, ses gros biceps, mais il n'y avait plus de vie en lui parce que l'esprit l'avait abandonné. Il était sans défense, ses yeux avaient été percés à cause d'une certaine femme. Il était juste obligé d'être conduit par un petit enfant. Il en est de même aujourd'hui en ce qui concerne l'Église. Elle est conduite par les politiciens, par les évêques, par les anciens et par toutes sortes d'inutilités. Ce sont des hommes qui sont juste des hommes de paille. Où en sommes-nous arrivés? Mais revenons à Michée. Celui-ci prophétisa qu'Achab serait tué dans le combat s'il est là-bas. Et cet archevêque, Sédécias, le gifla et lui dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Deux Chroniques, chapitre 18, verset 23. Michée lui répondit, « Tu le verras. » Achab ordonna alors, « Mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et d'eau, de l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Deux Chroniques, chapitre 18, verset 26. Mais Michée savait qu'il avait parlé selon Dieu. Pourquoi? Parce que sa vision concordait avec la parole. Il était prophète. Son esprit et sa vision cadraient exactement comme il en était du prophète Élie. Michée répondit à Achab, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Deux Chroniques 18, 27. Alors je dis à mon ami, qui était dans le vrai? Le conseil œcuménique? Les 400 qui étaient rassemblés? Ou ce petit renégat élu de Dieu? Il me dit, comment peux-tu connaître la différence? En retournant à l'original, on ne peut pas construire un bâtiment sans plan, sans les bleus de l'architecte. Et si ces gens-là avaient réfléchi un instant, ils auraient constaté qu'Élie avait maudit Achab. Il avait dit que les chiens lécheraient son sang. Et cela se produisit exactement comme il l'avait dit par la suite. Comment peut être béni celui que Dieu a maudit? Comment pouvez-vous bénir ce qui a été maudit par Dieu? Sortez de cela, tenez-vous-en éloigné, et venez à Christ et voyez sa parole.
Le début de la deuxième partie de la bande en langue anglaise est incomplet, note de l'éditeur.
Prépare-le, et la pensée intellectuelle est d'accord. C'est ce que pensait ce frère qui me parlait l'autre jour. Il disait, ne penses-tu pas que si nous nous groupions tous dans une seule église, cela ne serait-il pas mieux que d'être dispersés comme nous le sommes actuellement? Cela ne semble-t-il pas raisonnable si tous les catholiques et tous les protestants pouvaient se rassembler et trouver un terrain d'entente? Mais comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne s'entendent? Qu'ils ne soient d'accord. Un groupe qui croit en la guérison divine, un autre qui la conteste, un autre encore qui y croit, mais qui dit que ça n'existait que dans le passé, et certains qui ne croient même pas à la Bible. Qu'obtiendrez-vous si vous voulez réunir en une seule église tout cela? Vous obtiendrez la confusion, et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. J'espère que vous avez bien saisi cela. Avant que Dieu puisse mettre son église dans l'ordre, ils attendirent 10 jours et 10 nuits, jusqu'à ce qu'étant réunis en un même endroit, ils soient tous d'accord. Un seul accord, Alors ce fut la Pentecôte, et le Saint-Esprit leur fut donné pour les guider. Il ne s'agissait pas d'un conseil œcuménique. Voyez-vous? Notez que c'est l'incrédule qui ne suit pas la parole de Dieu. Celui qui néglige ce que dit la parole, c'est celui-là qui porte attention à vos propres raisonnements. C'est ce que fit Ève au jardin d'Éden. Ève s'est appuyée sur le raisonnement. Satan lui a dit, « Fais attention, n'est-ce pas raisonnable? Oh, je sais que la parole dit bien cela, mais réfléchis une minute, ne serait-il pas plus raisonnable, plus avantageux pour toi, si tu pouvais différencier le bien du mal ?» Eh oui, cela se passa ainsi, c'est par le raisonnement que tout arriva. Voyez-vous, l'incroyant raisonnera toujours, mais la foi n'y touchera pas. Prenez le cas d'Abraham, le père de la foi, dont nous sommes tous les fils en Christ. Qu'est-ce qui aurait été plus raisonnable, de penser que sa femme, âgée de 65 ans, pouvait avoir un bébé? Quand Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans, il n'avait toujours pas de bébé. Les grands docteurs avaient examiné Sarah. Ils auraient pu dire, « Mais sa matrice est desséchée, les glandes de ma mère sont sèches depuis 40 ans. À son âge, son cœur ne peut pas fournir un tel effort, elle ne pourra pas enfanter. » Abraham rejeta ses conclusions, il les refusa, il croyait, il s'en tenait à la promesse de Dieu. Et chaque fois que la promesse de Dieu rejetait le raisonnement, car quoi qu'il puisse arriver, il savait que Dieu est capable d'accomplir toute chose qu'il a promis de faire. Et maintenant, où se trouvent les enfants d'Abraham ce matin? Vous, les ministres de Dieu, vous avez peur de perdre votre situation matérielle si vous quittez cette Babylone. Vous avez peur d'être jeté à la rue. Où est votre foi? David n'a-t-il pas dit, autrefois j'étais jeune, et maintenant je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, et le serviteur de Dieu devoir mendier du pain. Ne craignez rien, demeurez fidèlement Christ, restez-lui fidèle. Mais l'incrédule s'emparera du raisonnement, l'incroyant compte sur la raison, la chose du temps présent, mais la foi ne fait pas cela. La foi s'appuie sur la parole. La foi se place sur le rocher immuable. L'éternelle parole de Dieu. Amen. La foi ne raisonne pas. Peu m'importe tout ce que vous me présentez de meilleur. Si la parole dit non, la foi en reste là. La parole est le sanctuaire de la foi. C'est en elle qu'elle repose. J'aimerais vous demander ce matin à vous tous, luthériens, baptistes, catholiques, et à vous tous qui appartenez à une dénomination quelconque, comment pouvez-vous placer votre foi dans votre dénomination quand elle est contraire à la parole de Dieu? Quelle sorte de foi est la vôtre? Vous avez le pouvoir de raisonner et non pas la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, par la parole de Dieu, et non pas de ce qu'on entend dans le conseil œcuménique. Amen! Vous pouvez consulter l'almanach des vieilles dames, mais vous ne le trouverez jamais dans la parole de Dieu. Indiquez-moi un homme qui puisse dire le contraire, et maintenir que c'est la parole de Dieu, puisque les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. La foi trouve son sanctuaire, son repos dans sa parole. Elle se tient au-dessus de ce rocher éternel, qui est Christ Jésus, la parole. Elle habite là, elle s'y repose. Que les vents hurlent, que les tempêtes se déchaînent, la foi y est toujours à l'abri. Elle se tient ici même, sur la parole. c'est le refuge de la foi originelle du chrétien. Son lieu de repos, c'est la parole. Car elle sait que la foi que Dieu démontrera toujours la supériorité sur chacun de ses ennemis. Amen. Aussi désespérée que paraisse la situation, aussi nombreux seront les ennemis, même si vous êtes considérés comme étant défaits, la foi surmonte tout. Elle connaît tout. Et vous, chers amis malades, quand vous avez saisi cette foi qui vous donne l'assurance de la guérison, rien ne peut plus vous ébranler. Ni les circonstances, ni les signes, ni les symptômes qui annonceront votre mort prochaine, mais la parole de Dieu est le lieu de repos de la foi originelle. Non pas une espérance, mais la foi. L'espérance reste à l'extérieur, jamais à l'intérieur, mais la foi, elle, elle est déjà à l'intérieur. Elle regarde à l'intérieur en disant, c'est fait. Voilà ce qu'est la foi. C'est dans la parole de Dieu que la foi se repose, car elle sait que Dieu ne permettra jamais que l'ennemi le surpasse. Il ne l'a jamais permis une seule fois, et la foi ne l'ignore pas. Amen. Aussi peu m'importe les apparences, Noé savait que l'arche flotterait, et évidemment, elle a flotté. Daniel savait que Dieu pourrait fermer la gueule du lion. Les enfants des Hébreux savaient que Dieu pourrait éteindre le feu. Jésus savait que Dieu le ressusciterait, car la parole avait prophétisé. Je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. Jésus savait que la corruption ne pouvait pas se manifester avant 72 heures. Aussi pouvait-il dire, le troisième jour, je ressusciterai. Voyez-vous, la foi garde son lieu de repos éternellement dans le sanctuaire de la parole de Dieu. Et c'est là qu'elle se tient. La raison essayera de son mieux pour vous séduire. Elle vous dira, mais ce système est forcément le meilleur, c'est ceci et c'est cela. Cela vous paraît meilleur parce que vous le considérez avec une pensée intellectuelle. Vous pouvez prouver un raisonnement, mais vous ne pouvez pas prouver la foi. Car dans ce cas, ce ne serait plus la foi. La foi ne connaît que la parole et la promesse. Elle voit ces choses que vous ne pouvez pas voir. La foi est la substance des choses que vous espérez, l'évidence des choses invisibles. Vous ne pouvez pas la raisonner. Je ne peux pas vous prouver comment cela s'effectuera. J'ignore comment il sera procédé. Je ne le sais pas, mais j'y crois. Je sais que cela est ainsi, parce que Dieu l'a dit, et cela résout tout le problème. C'est la raison pour laquelle je sais que cela est vrai. Je sais que la parole est vraie. Je sais que le message est vrai, car il est dans sa parole. Et je vois le Dieu vivant se manifester dans ce message pour prouver la véracité du message. Nous vivons à la veille de l'Exode. La mort elle-même ne peut pas ébranler la foi. Un homme qui croit peut se tenir en face de la mort et crier la victoire de sa résurrection. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Paul pouvait dire cela dans 1 Corinthiens 15, 55. Parce que Christ était ressuscité, et que ceux qui sont en Christ iront à sa venue devant lui quand il reviendra. Voyez-vous, la foi fait de la parole de Dieu le sanctuaire de son repos éternel. La foi repose dans la parole de Dieu. Notez bien ceci, ce roi, ce nouveau pharaon, qui était monté sur le trône, il ne connaissait pas Joseph. Et quel fut alors son premier plan pour détruire la puissance d'Israël? Il essaya de tuer les enfants. Le même démon, dans une forme différente de royaume, essaya de détruire le fils unique de Dieu, le roi Hérode, pour tuer, il voulut tuer cela dans l'œuf, et il ordonna de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Le démon est vraiment quelqu'un de rusé et d'intelligent. Il sait comment procéder pour faire avorter tous les projets. Le seul moyen que vous puissiez utiliser pour le contrer et le battre, c'est de vous confier en Christ, de vous humilier et de vous laisser conduire par lui. C'est la seule voie effective. Vos facultés intellectuelles ne vous serviront de rien. Il vous faut croire en Christ et lui faire confiance en vous reposant sur lui. Il est le berger. Ce n'est pas l'affaire des brebis d'éloigner le loup. C'est là le rôle du berger. C'est son travail. Mais les brebis doivent se rassembler autour du berger pour être à l'abri. Ma zone de sûreté est en Christ. Et Christ, c'est la parole. Voilà le lieu de la sécurité. Et la première chose que fit le démon, sous la forme de ce pharaon, fut de se débarrasser des petits-enfants par une mort naturelle. Aussitôt que le Fils de l'homme fut né, le démon sortit de l'Égypte, car Dieu détruisit l'Égypte qu'il avait maudite, et depuis cette époque, ce pays ne s'est pas vraiment relevé. Puis ce démon vint à Rome, et il s'y établit. Il dirigea ce système romain. Et il essaya de détruire quoi? De détruire le Fils de Dieu dans sa parole. Aujourd'hui, ce démon agit de même. Sous le signe d'un esprit religieux, il professe le christianisme. Il prend nos filles protestantes et il les marie à des garçons catholiques et il les oblige à donner à leur enfant une instruction religieuse catholique. De la sorte, la puissance de notre camp est diminuée. Voilà votre démon. Il est assis dans la ville aux sept collines. Il porte la tiare aux trois couronnes. Il est assis et il est doucereux, rusé, aussi intelligent que le serpent ancien. Et tous ses enfants proviennent de la semence du serpent. Il utilise les mêmes techniques intellectuelles. Voyez, à deux reprises, ils ont tué les petits-enfants, au temps du Pharaon et au temps d'Hérode. Ils moururent de mort naturelle, mais dans ces derniers temps, le démon cherche à attirer les enfants pour qu'ils meurent spirituellement. Par le mariage. Par le mariage entre les églises. Daniel n'a-t-il pas dit la même chose en parlant de ce royaume de fer et d'argile? Ils mélangeront leurs semences pour essayer de briser le pouvoir de notre peuple. C'est ce qu'ils font de nos jours. Ils ont déjà obtenu un premier résultat. Ils ont élu un président catholique. Il est dans la place. La prochaine chose qui reste à faire est d'introduire le cardinal, puis ensuite tout le cabinet. Alors à ce moment, que ferez-vous? Ce qu'ils feront par la suite, ils apporteront leur argent pour éteindre les dettes des États-Unis. Et ils emprunteront à l'Église, et vous serez alors tous vendus pour elle. Aujourd'hui, nous payons nos dettes de l'étranger au moyen des impôts, mais il faudrait 40 années pour en arriver au bout. L'État n'a plus d'argent, mais l'Église en possède. La Bible ne dit-elle pas qu'elle est parée d'or et de pierres précieuses? En se mariant avec les catholiques, nos enfants seront élevés dans la foi catholique et ils mourront de mort spirituelle. La Bible ne dit-elle pas qu'elle sera jetée dans un lit de mondanité et que ses enfants périront de mort spirituelle? Regardez Apocalypse 17. La parole reste toujours la parole. Peu m'importe où vous allez, elle est toujours la parole. Elle devra s'insérer dans la grande image, sinon ce n'est pas la parole. Si elle ne se confirme pas au travers de toute la Bible, ce n'est pas la parole. C'est faux. Constatez en ce moment même, Dieu a préparé son serviteur pour son service. Il l'a entraîné hors de leur vue, hors de leur plan, hors de leur projet. Saisissez-vous bien cela. Hors de leur système organisé, Dieu a préparé un homme pour son dessein. Il lui a seulement dit de continuer. Il lui a permis de se marier, d'avoir des enfants. Il mène une vie agréable et il le bénit ici même. Mais à tout moment, Dieu le tient prêt. Il l'entraîne. Et dans ce temps, Dieu et son ennemi Satan agissaient dans le naturel. Mais aujourd'hui, ils agissent tous deux dans le domaine spirituel. Auparavant, la mort naturelle était utilisée, mais aujourd'hui, il s'agit de la mort spirituelle. Voyez-vous, Dieu avait un homme naturel à sa disposition. Il était prêt. Moïse, c'était son prophète prêt à descendre dans l'Égypte. Satan, lui, avait à sa disposition Ramsès. Il était prêt. C'était un homme naturel. Pourquoi? Soit pour tuer, soit pour unir tous les Égyptiens et les Hébreux ensemble et les réduire tous au service de Pharaon. Il est difficile pour la pensée de raisonner contre un système d'instruction qui peut prouver ce qu'il avance. C'est vrai, la pensée se tournera toujours vers l'instruction. Les esprits intellectuels ne se rendent même pas compte de ce qui est spirituel. Avez-vous vu le film de Cecil B. DeMille, Les 10 commandements? Je pense que beaucoup l'ont vu. Je vous dirai tout de suite que je ne suis pas en faveur de tous ces spectacles ou autres. D'abord, Quelques-uns des frères ont vu le film, et ils m'ont demandé d'aller le voir. Et depuis des années, je n'étais plus jamais allé dans ces salles obscures. Et finalement, je m'y suis rendu pour me rendre compte. J'ai vu le film, et je peux dire à l'Église, si j'ai pu voir ce film, allez-y, c'est très bien. C'était un beau spectacle. C'était intéressant de suivre tous les tours de ce démon, comment il est plein de ruses. Et comme il évoluait avec aisance pour tuer spirituellement ses enfants, on pouvait se rendre compte avec quelle facilité l'esprit intellectuel pouvait saisir ses messages et les comprendre. En effet, il pouvait les voir, tout se déroulait suivant un ordre rationnel. Et de tout temps, Dieu a préparé pour que ses prophètes soient bien entraînés. L'Égypte était puissante en politique, et ce Ramsès a dû être enseigné à ce sujet avant de monter sur le trône. Alors un jour vint l'affrontement, la grande contestation entre le pouvoir intellectuel et le pouvoir spirituel. Ramsès, entouré de tous ses dieux, se tenait là, d'or. Il versa de l'eau dans le Nil pour bénir le dieu du Nil. Mais Dieu frappa les eaux du Nil et les eaux furent changées en sang. Oh, comme tout ce qui se passait devait frapper l'imagination. Voyez-vous, les intellectuels agiront toujours selon le raisonnement. Mais ils ne peuvent pas comprendre le côté spirituel des choses parce qu'ils sont intellectuels. Comme ils ne l'ont pas saisi en d'autres temps, ils ne peuvent pas le voir de nos jours. Ils ne purent pas le voir au temps d'Élie, ce vieux prophète au visage hirsute. Que Dieu me pardonne pour utiliser une telle expression. Mais c'est pour vous faire mieux comprendre que vous saisissiez l'Esprit de Dieu. Quand Paul a dit dans 1 Corinthiens 4:5, je ne suis jamais venu à vous en utilisant dans mon langage des paroles de séduction ou de sagesse humaine, car alors votre esprit se tournerait vers la sagesse humaine, mais je suis venu vous parler avec la puissance du Saint-Esprit qui se trouve ici, afin que votre espérance et votre foi reposent non pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de résurrection de Jésus-Christ. J'ai paru ridiculiser la face du grand prophète Élie, car il se peut qu'une personne horrible à voir se tienne aux côtés d'un prêtre bien habillé, qui s'appelle lui-même un homme de Dieu. Regardez-les tous les deux. C'est votre esprit intellectuel qui vous permettra de voir la sainteté dans le prêtre. Vous pouvez voir ce turban qu'il porte sur sa tête, sa tournure, les fautes qu'il porte sur sa poitrine, vous pouvez voir cette huile naturelle coulant sur sa barbe et qui va jusqu'au bord de son vêtement, jusqu'à l'ourlet. Vous pouvez voir brûler les feux du sacrifice et constater que tous les rites se déroulent normalement. Voilà ce que votre esprit naturel découvre. C'est ce qu'il tente de faire encore aujourd'hui. L'œil naturel est la porte de l'âme. Mais voyez-vous, l'œil spirituel se trouve tout au fond de cet œil naturel. C'est lui qui regarde le voisin du prêtre bien habillé. Oh, ce voisin a une drôle d'apparence. Il a les cheveux hirsutes qui lui tombent sur les épaules. Il est vêtu d'une peau de mouton. Il a une ceinture autour des reins. Il a les pieds nus dans des sandales. Ses bras sont décharnés. Une grande barbe blanche qui entoure son visage. Et il tient à la main un vieux bâton noueux. Il se tient là, mais l'œil spirituel peut voir et qu'il est rempli de la puissance de Dieu. Parce qu'il s'en tient exactement à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'œil intellectuel qui voit cela, mais l'œil spirituel. Aujourd'hui, l'œil naturel voit l'Église bien décorée, un individu se tenant auprès du maire de la ville ou de tout autre parlementaire ou personnalité importante. Beaucoup d'autres se tiennent dans ces dénominations, dans ces organisations. Mais impossible d'y rencontrer la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, dans la résurrection des morts, dans la guérison divine des malades. Ce que ces gens remarquent, ce sont les gens qui se promènent dans la rue, les spectacles d'Hollywood. La femme d'aujourd'hui pense à cette question, mais comment s'appelle-t-elle donc? Suzy. Elle fait partie de l'Église, elle a les cheveux courts, elle s'habille à la mode, tout le monde l'aime dans la ville. Oh! Et maintenant, il rappelle quelque chose. Au ciel, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu le rejette. S'il l'acceptait, il renierait sa propre parole. Sachez bien cela, Dieu n'agira jamais ainsi. Bien que les cieux et la terre pourraient passer, Pour Dieu, une femme aux cheveux courts est maudite à ses yeux, ainsi que toute femme qui porte un vêtement masculin. L'œil spirituel saisit cela, mais l'esprit naturel n'y voit rien de répréhensible. Notez bien ceci, Dieu va se manifester, et personne même ne s'en doute. L'esprit charnel va de pair avec la raison. Dieu va maintenant susciter un exode spirituel. Avant, il s'agissait d'un exode charnel, naturel. Aujourd'hui, il va provoquer un exode spirituel. Et qui en seront les bénéficiaires? Uniquement les élus. Uniquement les élus. Et l'époque, l'Égypte, ne pouvait pas reconnaître le bien fondé d'Israël. Tout cela malgré le sang de l'agneau, qui était là aspergé sur les linteaux et sur les poteaux de la porte, toutes les manifestations divines qui se produisirent. Dieu était présent, manifesté dans son prophète, parlant par la bouche de Moïse. Il se tenait là, auprès de l'équipe qu'il avait formée et entraînée, et il se dirigeait vers l'est. Il vit que les mouches venimeuses s'abattent les Égyptiens. Mais retournons un petit peu en arrière. Chacun disait, mais rien ne se produit. Mais peu de temps après, une mouche, puis deux mouches vertes se mirent à voler. Bientôt, elles étaient en si grand nombre qu'il y en a eu plus d'un kilogramme au mètre carré. La parole de Dieu est créatrice. L'intellectuel Ramsès était présent. L'esprit naturel ne voyait que Ramsès, mais l'esprit spirituel voyait la promesse. Elle constata sa réalisation. Josué et Caleb pouvaient affronter les Amalécites, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens. Pourtant, leur taille était deux fois ou trois fois plus petite que la taille de ces gens-là. Mais par contre, les hommes naturels à Kadesh-Barnéa dirent avec les autres espions, « Oh, mais nous ne pouvons pas y aller, ils sont trop nombreux, nous sommes comme des sauterelles auprès d'eux. » Caleb et Josué avaient vu la promesse de Dieu. Ils dirent, « Si nous sommes élus, nous sommes capables de les vaincre. » Pourquoi cela? Ils avaient entendu la promesse de Dieu, « Je vous donnerai ce pays. » Voyez-vous? L'esprit charnel ne saisit pas cette promesse, mais l'esprit spirituel s'en empare. Pourquoi les Égyptiens furent-ils aveugles devant les miracles de Dieu? Parce qu'ils n'étaient pas des élus. Ouvrez bien les oreilles, vous Église assoupie. Dieu a dit à Abraham, avant que ça ne se produise, ta semence se tournera en Égypte pendant 400 ans, et je les en ferai sortir. Israël était un peuple élu pour voir les signes de Dieu, et il sortit d'Égypte, mais les incroyants périrent dans le désert. Aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la semence spirituelle d'Abraham, qui a la foi dans la parole de Dieu. Ne reconnaissez-vous pas aujourd'hui cette semence spirituelle? Elle voit la parole, pas l'Église intellectuelle. Elle a été retirée de ses grandes dénominations pour se trouver dans la présence de Jésus-Christ. N'est-ce pas clair? Le réalisons-nous bien? Très bien. Continuez votre étude. Uniquement ceux qui sont élus. Les docteurs diplômés ne verront jamais cela. Ils ne font pas partie des élus. Prenez-en bien note. Cet exode qui se prépare pour les élus ne consistera pas à changer de pays. Il conduira vers la gloire. Ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il ne s'agit pas de ce petit agneau animal qui fit sortir Israël d'Égypte. Il s'agit du sang de l'agneau de Dieu qui fut immolé avant la fondation du monde. Et leurs noms ont été inscrits sur le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ils y sont, élus de Dieu. Et lorsqu'ils sont illuminés par cette révélation, les murs de ces dénominations s'écroulent autour d'eux. Et ils viennent ici à Christ. Dans ces derniers jours, le Saint-Esprit vous dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à leurs choses impures, je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. Israël observait, il savait que Dieu se servait de ses prophètes, la parole vint à lui et tous la virent. Mais nous constatons alors que le signe intellectuel demeurait, il croyait à leurs organisations, à leurs credos, il en était comme du temps du prophète Balaam, qui se présenta au sommet de la colline où se trouvait Israël. Là était Israël, non pas même une nation organisée, mais juste un peuple irrésolu et pécheur. Et Moab, son frère, l'homme intellectuel, L'homme organisé, il vint également au sommet de la colline avec le prophète. Tous deux, ils élevèrent un autel à Dieu. Ils offrirent là le même sacrifice. Mais lui, Moab, il ne parvint pas à voir la colonne de feu, le rocher frappé parmi Israël. Et il en est ainsi à nos jours, de nos jours. L'esprit intellectuel regarde à la célébrité, à la personnalité qui se trouve présente. Il n'est pas capable de voir le rocher frappé. L'évêque lui-même ne s'aperçoit pas de la puissance du Saint-Esprit. Il n'entend pas l'appel du roi dans le camp. Il ne peut même pas s'en rendre compte. Il en est de même aujourd'hui. Dieu appelle son peuple élu. Pourquoi ont-ils été élus et choisis pour une résurrection? Quel est le signe que Dieu leur montre? Le signe de la résurrection. Que leur montra-t-il? Un signe de délivrance pour les délivrer et les sortir de l'esclavage. Un signe de puissance qui peut fermer les cieux ou enténébrer le ciel. Et maintenant, il montre sa puissance de résurrection au travers de son Fils qui est au milieu d'eux pour les ressusciter de ce tombeau, du cimetière où il repose pour les conduire dans un lieu qu'il nous a promis. Le signe de la résurrection, c'est l'appel. Pour sortir de l'Égypte intellectuelle, de la Babylone intellectuelle, oh, je pense que vous avez tous compris. Dieu agit comme il l'a fait au commencement. Il aveugle les yeux de l'incroyant et il ouvre ceux du croyant. Il tient ce dernier à l'écart de sa politique. Car la politique se trouve du côté intellectuel et lui, il est du côté spirituel. Dieu a choisi un homme dans le désert. Il l'a entraîné, il l'a fait retourner et cet homme a accompli sa mission. Moïse et le peuple sont sortis. Voyez-vous ce que je vais vous dire? Dieu ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Il ne traitera pas avec un groupe, il ne l'a jamais fait. Il traitera avec une seule personne. Il l'a fait et il le fera de nouveau. Il l'a promis même dans le 4e chapitre de Malachie, au verset 5 et 6. Et il l'a fait, c'est vrai. Voici la promesse. Il a dit qu'il l'accomplirait. Nous y sommes. Combien heureux devrions-nous être. Il nous a donné le signe de sa parole promise, de sa promesse. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il restaurera la foi du peuple. Il ramènera le cœur des gens à la foi des pères, de ceux de la Pentecôte originelle. Il a promis de le faire. Et il nous montre ses signes. Comme il en était dans les jours de Sodome, ainsi en sera-t-il de même à la venue du Fils de l'homme. Quelle sorte de signes les églises de Sodome virent-elles? Que vit cette église intellectuelle? Les prédicateurs, il y en a eu deux, ils vinrent à elle. Mais que vit Abraham et son groupe, qui constituait l'église spirituelle, celle des élus? Cette église-là vit Dieu, manifesté dans un corps de chair humaine, qui pouvait discerner les esprits et dire ce que Sarah pensait juste derrière lui. Comme il en était au jour de Lot, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. En ces jours-ci, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous le voyons agir au travers du corps humain. C'est l'heure fixée. Voyez-vous, nous y sommes, mes amis. C'est tout. Un exode est en train de se préparer. Notez bien maintenant. Comment Dieu a-t-il agi là-bas? Que le Saint-Esprit vous permette de comprendre cela maintenant. Avec un esprit spirituel, chassez l'indifférence de votre cœur. Car quand Dieu prend une décision, il agit toujours de la même manière. Il ne change pas. Il ne change jamais. Dans le jardin d'Éden, quand il a décidé de racheter un homme, de renouveler son alliance avec lui, que fut sa décision? Celle du sang. Eux ont essayé l'instruction, la dénomination et toutes sortes d'autres choses, mais ça n'a donné aucun résultat. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu puisse jamais rencontrer un homme, et c'est dans le sang versé. Comme ce fut le cas dans l'Éden. Rien n'est changé. Le seul endroit où l'on puisse rencontrer Dieu du temps de Job, c'était sous l'agneau du sacrifice. Il en était de même du temps d'Israël. Il en fut de même dans le jardin d'Éden, sous l'agneau sacrifié. Le seul endroit où l'on puisse rencontrer Dieu de nos jours, ce n'est pas dans les dénominations. Ils se disputent et ils se chamaillent les uns contre les autres, ni dans les milieux intellectuels. Ils sont tous mélangés, mais uniquement sous le sang de l'agneau. chaque croyant peut rencontrer son allié là où se trouve la vie. Et Dieu choisit dans les jours de l'Exode, il appelle un groupe, et de ce groupe, sous Moïse, deux seulement entrés dans la terre promise, Josué et Caleb. Que choisit-il pour les sortir? La politique? L'organisation? Non! Il choisit un prophète, avec un signe surnaturel, celui de la colonne de feu, pour que le peuple ne soit pas trompé. Et ce que disait le prophète était la vérité. Dieu descendit lui-même dans une colonne de feu, il se confirma lui-même, et il montra sa parole. N'est-ce pas vrai? C'est ce que Dieu a apporté dans le premier exode. Il y aura le second exode et le troisième exode. Dieu agit toujours en trois, car le chiffre 3 est la perfection, alors que le chiffre 7 est la plénitude. Rappelez-vous, comme groupe de trois, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et aussi, Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas trois personnes, mais trois attributs. Le premier exode concerne celui de l'Égypte. Dieu envoya un prophète, loin de la colonne de feu. Puis il fit sortir d'Égypte son peuple. Ce fut le premier exode. Et quand le temps d'Israël vint à son terme, Dieu envoya aussi un Dieu prophète, Jésus, avec une colonne de feu. Jean-Baptiste vit cette dernière descendre du ciel sur Jésus comme une colombe. Et Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, vit cette colonne de feu. Et cet Hébreu très instruit dans la parole dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur lui-même. Il entendit la réponse à sa demande, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 9.5. Au second exode, il envoya un prophète loin, qui était son fils, le Dieu prophète. Dieu l'avait annoncé à Moïse en Deutéronome 28.13, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères un prophète comme moi. Et Dieu a aussi dit dans Deutéronome 18.18, je leur susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. Ce prophète aura sur lui la colonne de feu. Il fera des signes et des miracles. Et il est même dit dans Jean 14.12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il a promis la même chose pour l'exode de ces derniers jours. Il ne peut pas changer. Nous avons vu aujourd'hui cette même colonne de feu. Elle a même été photographiée. Nous avons été témoins du Saint-Esprit, des œuvres de l'Esprit. Nous avons vu aujourd'hui se déplacer cette grande colonne de feu au-dessus de nous. Ce sont là les signes et les miracles de la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci appelle les siens à sortir de toutes les dénominations pour se tenir avec lui et vivre avec lui dans le pays promis. Ne vous y trompez pas, mes amis. Je suis simplement votre frère. Ce que je vous dis est ce que Dieu veut vous prouver. Cette présence aujourd'hui est la même colonne de feu qu'il a envoyée du temps de Moïse et du temps de Jésus, et c'est la preuve de sa vérité. Comme vous le savez, Life Magazine en a parlé abondamment. Combien a-t-il parmi vous qui, dans ce tabernacle, ont entendu prédire ce qui devait se produire par la suite? Je pense que chacun l'a entendu. Chacun peut se procurer une photo de cette immense nuée en forme de pyramide de 45 kilomètres de hauteur. Les hommes de science n'ont jamais pu expliquer le phénomène. Et sur cette photo, on distingue nettement les sept anges qui m'ont révélé tous ces mystères et qui vous ont fait connaître ces heures que vous allez vivre. La pensée spirituelle peut saisir tout cela dès maintenant. C'est un exode qui est en vue. Nous allons être enlevés un de ces jours. Merci soit donné au Seigneur. Je vais terminer dans quelques minutes. N'oubliez pas, du temps de Moïse, la colonne de feu les a fait sortir d'Égypte pour les conduire à la terre promise sous l'onction d'un prophète. Les Hébreux pouvaient la voir tous les jours. Maintenant, je sais qu'il y a un service de baptême d'eau. Je vais m'arrêter dans une minute. Mais veillez-y, nous sommes dans un temps d'appel. Sortez hors de Babylone, mon peuple, dit la voix de l'ange. Hors de quoi? Hors de la confusion. Qui a raison? Le méthodiste, le baptiste, le catholique? Sortez de chez eux. Il n'y a que Dieu qui a raison. Comment le savez-vous, me direz-vous? Cela est écrit dans Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur. Sortez de chez eux. Que savez-vous, me direz-vous? Je vous dirai que cette même colonne de feu, ce même esprit de l'onction qui les a fait sortir d'Égypte pour les conduire à la terre promise, quand George Lacy, le chef du FBI, établit son rapport au sujet de la photographie, beaucoup dirent « on a utilisé des lunettes ou des lentilles à double foyer » et d'autres dirent « c'est un phénomène d'optique, un effet psychologique ». Et que répondit George Lacy? L'œil mécanique de la caméra n'enregistre pas la psychologie. Voyez-vous, 6 mois avant le phénomène, j'avais annoncé sous l'onction du Saint-Esprit que je monterais sur la montagne pour recevoir des révélations. Et un de mes frères a eu un songe où j'ai donné l'interprétation, et ce qui était écrit sur la pyramide se trouvait de l'autre côté. Et voici l'entière interprétation. Actuellement, tous les mystères concernant la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit sont expliqués. Les 7 sceaux ont révélé les mystères. Et dans ce songe, le haut de la pyramide s'ouvrait. Et on trouva là à l'intérieur de la roche blanche. Mais rien n'était inscrit sur cette pierre. Ceci reste encore un mystère. Je me suis rendu à Tucson, comme je l'avais annoncé 6 mois plus tôt. Je me trouvais au nord de Tucson. Les témoins qui sont dans cette salle étaient avec moi. Un esprit, un souffle puissant ébranla la montagne. Et au même instant, une auréole de lumière était suspendue là dans les airs. Et quand les photographes prirent les images, il fut constaté que la hauteur de la nuée était de 40 kilomètres. Personne n'a pu donner une explication scientifique à ce phénomène. Et comme le cantique le dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Vous trouverez sûrement le chemin de la gloire. Car si vous faites partie de ces élus, cette semence sombra dans le sol doux et moelleux de la foi. Elle va donner naissance à un véritable chrétien qui porte les fruits de l'esprit. Mais si cette semence tombe sur un terrain desséché ou sur des roches qui représentent des cœurs endurcis, des cœurs de pierre, cette semence ne donnera jamais rien du tout. Comment le Seigneur fit-il cela? Il était cette même colonne de feu. Cela prouve sa présence. Si quelqu'un me dit, pourquoi n'allez-vous pas parler de cela à des hommes de science? Croyez-vous qu'ils le croiraient? Jésus a dit, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. J'ai habité dans la cité de Tucson. Je suis descendu pour leur annoncer ce que j'avais vu. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas pour eux. Éloigne-toi! Retourne à Jeffersonville et dis-le dans ton tabernacle. Très bien. Tout cela s'est passé comme prévu. Le Seigneur a dit, si ce qu'un prophète dit se réalise, alors c'est bien moi qui ai parlé. Suivez ce que dit la Bible. C'est la voix de Dieu qui vous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, cette même colonne de feu va conduire le peuple élu de nouveau vers une terre promise, le millénium. Nous avons trouvé sous l'inspiration du 6e sceau ce qui n'avait jamais été enseigné dans le passé. Comment cette terre doit être purifiée pour le millénium? La colonne de feu va les conduire à un millénium. Notez bien, dans cette colonne de feu qui conduisait Israël du pays de l'esclavage, lors de cet exode sous la conduite de Dieu, Dieu était le feu. Et la colonne de feu seulement oignait le prophète. La colonne de feu se tenait là comme un témoin céleste pour prouver que Moïse avait bien été appelé. Rappelez-vous d'Aaron et de ses compagnons qui se dressèrent contre Moïse en lui disant, eh bien, nous allons créer une organisation maintenant. Moïse, tu te fatigues trop. Tu essaies de nous convaincre que toi seul es saint parmi nous. Mais la congrégation entière du Seigneur est sainte. Comment peux-tu prendre tout cela pour toi? Moïse tomba à genoux et il commença à pleurer. Mais Dieu lui dit, sépare-toi de lui. Je vais ouvrir la terre et l'engloutir. C'est un type, un exemple. Comment Moïse aurait-il pu leur dire ce que Dieu avait décidé? Myriam, la prophétesse elle-même, et Aaron, rire en apprenant le mariage de Moïse avec cette jeune Éthiopienne, et ils se moquèrent de lui. Quelle fut la réaction de Dieu? Il les a convoqués à la porte du tabernacle. Myriam était prophétesse, mais Moïse était plus qu'un prophète. Dieu leur dit, « Ne craignez-vous pas Dieu? Si parmi vous il y a un prophète, moi le Seigneur, je lui parlerai dans des visions et je me ferai connaître à lui dans des songes. » Il n'a pas dit, « Ne craignez-vous pas Moïse? » Mais il a dit, « Ne craignez-vous pas Dieu? » Et à l'instant même, Myriam fut à moitié morte et couverte de lèpre. Vous savez tout cela? Jésus n'a-t-il pas dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète? Pourquoi était-il plus qu'un prophète? Parce qu'il était le messager de l'Alliance. Cette arche qui réunissait deux dispensations, celle de la loi et celle de la grâce. Et aujourd'hui, quand le glorieux Saint-Esprit qui est parmi nous, il est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté au milieu de nous, avec sa parole pour le prouver. Il est plus qu'un prophète, car il a accompli mille fois plus de miracles que les prophètes en firent. Élie, l'un des plus grands prophètes de son âge, a seulement accompli 4 actes surnaturels dans toute sa vie de plus de 80 ans. Élisée, avec une double onction de l'Esprit, en a accompli 8. Et vous, vous avez assisté à plus d'un million de miracles. Vous les avez vus de vos propres yeux. Regardez à l'ange du Seigneur dans une colonne de feu. Le monde scientifique a diffusé la photo dans le monde entier, sachant qu'il sera jugé par cela. Et que fit cet agneau? Cet ange du Seigneur qui était Christ, vous le croyez? Dans Jean 2, ils buvaient tous de l'eau changée en vin en os de Cana. Ils avaient du bon temps et ils se réjouissaient. Et dans Jean 6, 33 à 35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie qui descend du ciel et qui vient de Dieu. Je suis le rocher qui était dans le désert. » On lui répondit, « Nous savons que tu es fou, tu es fou. Il y a un démon en toi. » Vous savez, même les gens qui sont très religieux peuvent avoir un mauvais esprit sur eux. Il disait, « Tu es un démon, tu es possédé par le démon, tu es un samaritain et tu as un démon en toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. » Il me semble voir Jésus reculer de quelques pas et leur dire, « Je suis celui qui suis. Avant Abraham, je suis. » C'était un feu ardent, cette colonne de feu dans le buisson. Et après sa résurrection, quand Saul de Tarse fut aveuglé par la colonne de feu, Jésus était de nouveau retourné dans cette colonne de feu. Il a dit, « Je viens de Dieu et je vais à Dieu. » Et quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra. Elle ouvrit les portes, elle libéra l'apôtre. C'est vrai. Notez bien que Moïse, dans le désert, n'était pas la colonne de feu. Il était le conducteur loin sous cette colonne de feu. Et cette colonne de feu se trouvait là pour confirmer son message par des signes et des miracles. Et cette colonne de feu les a conduits vers la terre que Dieu leur avait promise. C'est dans ce pays que Jésus lui-même est qu'un jour nous serons aussi. N'est-ce pas vrai? Que firent-ils ces Hébreux? Ils murmurèrent. Ils haussèrent les épaules pour montrer que c'était sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, la colonne de feu que nous avons vue au milieu de nous, nous conduira au millénium, à ce règne de 1000 ans, à la suite de ce troisième exode. Nous y vivrons éternellement avec le Seigneur. Il a toujours la parole du Père, ce qui prouve toujours que c'est vrai. Nous sommes dans un exode. Avant de terminer et d'arrêter les magnétophones, « Oh, mes frères, mes amis, vous tous qui êtes présents ici, et vous tous qui entendez ces bandes, en tant que citoyens du royaume de Dieu, laissez-moi vous dire, sortez et prenez place dans cet exode. Tous ceux qui restèrent en arrière, oh, tous ceux qui restent en arrière, ils ne seront pas enlevés. Ils porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de tous ces systèmes et servez le Dieu vivant. Suivez cet ange puissant de l'Alliance, Jésus-Christ, sous la forme de Dieu. Aujourd'hui, il est la colonne de feu, sous la même forme qu'il possédait quand il conduisit le premier exode, celui de Moïse, puis le second exode et en ce moment le troisième exode. Dans le premier exode, que fit-il? Il les fit sortir d'un autre pays, pour les sortir d'une terre naturelle vers une autre terre naturelle. Mais dans le second exode, il les fit sortir d'une condition intellectuelle dans un baptême spirituel. spirituel du Saint-Esprit. Et maintenant, dans le troisième exode, il les conduit d'un baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans cette terre éternelle du millénium, dans le grand au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système d'onction, et le même Dieu faisant les mêmes choses. La même parole annoncée le premier exode, le deuxième exode, et le troisième exode. Et ce dernier est maintenant parmi nous. Oh, sortez, sortez de ce chaos, venez au Dieu vivant, venez à la parole. Car la parole fut faite chair, et elle a demeuré parmi nous, et maintenant il est dans notre chair, habitant parmi nous. Sortez-en et servez le Dieu vivant. Pendant que nous inclinons nos têtes, une prophétie est donnée par quelqu'un dans l'assemblée, note de l'éditeur. Avec nos têtes baissées, des profondeurs de notre âme, des profondeurs de tout votre être, êtes-vous d'accord pour que l'on prie pour vous? Êtes-vous prêt à abandonner toutes les choses du monde et à vivre pour Dieu? Maintenant, si vous ne le pensez pas, ne le faites pas. Mais si vous y croyez de tout votre cœur, que vous en êtes malheureux, convaincu, comme l'a dit Jésus à la fin de son ministère, maintenant alors croyez. Êtes-vous convaincu que tout cela est vrai, confirmé par Dieu, que nous sommes à la fin des temps, que maintenant vous voulez réellement venir à Christ? Alors venez dans cet exode. Cet exode qui vous demande de sortir des dénominations, des idées, des choses du monde. Voulez-vous vous en remettre à lui de tout votre cœur et faire partie de cet exode qui vous conduira à la terre promise et bénie? Alors levez vos mains pendant que nous prions. Êtes-vous bien certain de vouloir y pénétrer, chacun de vous? Ô mon Père céleste, permets à ceux qui ont levé leurs mains, accepte-les dans cet exode, Seigneur. Que le Saint-Esprit, comme il est promis dans la parole, pénètre dans leur cœur. Dans cette assemblée, il y a environ 20 mains levées. Je suppose, Père, qu'ils sont sincères, qu'ils veulent sortir pour te suivre. Dans les jours de la sortie d'Égypte, d'Israël, sur 2,5 millions de personnes, 2 seulement ont pénétré dans la terre promise. Dans les jours de Jésus-Christ, il y en a eu environ 120 de sauvés à la Pentecôte. Aujourd'hui, dans ces jours de la fin du monde, tu as dit, entrez par la porte étroite, car large est le chemin, spacieux est la porte qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a si peu qui les trouvent. Ces paroles ne peuvent pas mentir, car elles sont de toi. Maintenant je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour qu'en cette heure, par ton Saint-Esprit, tu circoncises leur cœur, débarrasse-les de toutes les choses du monde, circoncis leurs oreilles afin qu'ils puissent entendre pleinement la voix de Dieu qui les appelle au moyen de sa parole et de sa lumière dans ce jour. Permets, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu en cette dernière heure finale. Tu as dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi et je les ressusciterai au dernier jour. Seigneur, il se peut que certains ici n'aient pas encore bien compris. Je te prie que tu t'occupes d'eux et que tu leur donnes une autre occasion, Seigneur, afin qu'ils arrivent à saisir. Ils ont entendu que tu parles au travers de ta parole, te faisant connaître à nous. Tu nous parles dans une voix surnaturelle et ensuite nous l'interprètes. Nous voyons alors tes grandes œuvres que la Bible a annoncées. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner nos péchés en cet instant. Et comme je me repose entièrement sur cette parole, je pense qu'il y a juste une semaine, sur ce plancher même, je me suis allongé sur un homme mort. J'ai vu alors le puissant Saint-Esprit le ramener à la vie. Ses yeux étaient retournés au fond de ses orbites. Il était ici allongé, mort, et simplement quelques mots qui appelaient ton nom l'ont fait revivre. Cet homme est ici aujourd'hui, et il est toujours vivant. Seigneur, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quand Paul s'est allongé sur ce corps sans vie, qui était tombé de la fenêtre du troisième étage pendant sa prédication, c'est toi le même Dieu qui l'a ramené à la vie. Nous te remercions, Père. Les incroyants peuvent ne pas croire, mais nous, nous croyons. Tu nous as prouvé ta puissance et ta présence. Et maintenant, permets que les pensées du cœur soient révélées. Que les pensées de mon esprit, que toute ma force, que tout ce qui est en moi, soient fondues dans ta parole. Que la parole et moi, ensemble, Seigneur, avec toutes ces personnes, nous marchions tous vers le royaume de Dieu. Exauce-nous, Seigneur, pardonne nos péchés, guéris nos maladies, et fais de nous des sujets, de nous tous, des sujets de ton royaume. Et alors que ceux-ci s'avancent pour être baptisés, alors que les eaux sont prêtes, nous nous souviendrons de l'évangile de Paul, le même que nous prêchons, car la Bible déclare que tous ceux qui croient soient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ici devant toi, Seigneur, sont disposés des mouchoirs, et je les bénis dans le nom de Jésus pour la guérison des malades. Il est tard. Nous devons semer la parole dans un terrain approprié, car l'hiver arrive, et nous le voyons bien. Les feuilles tombent, nous savons que l'hiver est proche. Nous devons gratter la terre pour semer le bon grain. Je te prie, Père Céleste, de parler à chaque cœur, comme la Bible l'a dit, que tous ceux qui croient soient baptisés. Je te prie, Seigneur, s'il y a ici certains qui croient, mais qui n'ont jamais été baptisés dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ le Seigneur, qu'ils viennent ce matin dans la douceur et l'humilité confesser leurs péchés et mourir aux choses du monde, puis être ensevelis et prendre sur eux le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vivre saintement par la suite avec l'aide du Saint-Esprit. Nous te les apportons maintenant, Seigneur, dans ce but, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je laisse la parole à Frère Neville, pendant que nous allons procéder aux différents baptêmes. Et à ce soir, à 7h30, Dieu voulant, je désire enregistrer cet autre message. Que Dieu vous bénisse en attendant.